Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va encore passer une magnifique émission en votre compagnie. On est là pendant 2h comme tous les jours de 18h à 20h du lundi au vendredi. Et là on est en plein milieu de semaine, et oui, mercredi, on s'éclate vraiment, encore un bon plateau autour de moi aujourd'hui, à commencer par Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça, Jean-Louis ?
Bah oui.
Ouais, t'es bien. Là, on a un beau plateau. Il est bien gardé.
Charcuterie.
On a le champion du monde. Il est là, Manu Petit. Salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Salut Manu. Notre héros, il est là. Ça fait plaisir de te retrouver. Ah ouais, ouais, en pleine forme.
Ah bien.
Toi aussi, en milieu de semaine, tout va bien.
On t'a pas dit que t'avais pas le droit de porter du verre dans les studios parce que ça faisait.
Pourquoi ?
Il n'y a pas contraste derrière avec
le. Alors, on fait de la radio.
C'est pas grave, on fait de la radio, les gens s'en foutent. Okay, donc c'est bien, mais on fera ça dans Roten s'en fout.
Je m'excuse.
Écoute, notre joueur en activité, il est là, Jérémy Ménez. Salut Jérémy.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Pour l'instant. Je sais pas.
Toujours si. Pas d'annonce
Si, oui, je suis toujours en activité.
Ouais. Ah. Pas d'annonce?
Non, pas d'annonce.
Si le Havre veut le recruter pour
sauver les 4 matchs qui restent.
Les quelques matchs qui restent, c'est possible.
Tu peux jouer tout de suite?
Non, je peux pas jouer.
Non, là, bon, d'accord.
Ça serait enfin une bonne trouvaille de Mathieu Bonner. C'est pas la réussite d'Ayo.
On le salue, Mathieu.
Oui, bien sûr.
Mais bon, quand il nous a quitté, on lui avait promis qu'on ferait son procès un jour. On n'en est pas loin.
Ça s'approche, on est là. Ah bah, on est intransigeant, nous.
Ouais, bien sûr. Oui. Attendre qu'il descende pour le défoncer, en fait.
Ah, bah, comment tu sais?
Moi, c'est pas nous.
Ça sera un sujet.
Non, on fera pas le procès de Bayo tout de suite.
Ah, ni de Bayo, ni de Mathieu. Ça reste un ami de Roten sans flamme. Ah, peut-être. Ce soir, Roten sans flamme, donc, autour de la mise à jour du calendrier de Ligue 1. Ce soir, Lorient PSG à 19h. Si Paris gagne et que Monaco à 21h ne bat pas Lille, bah, le PSG sera champion officiellement dès ce soir. Et l'autre enjeu de la soirée, c'est la bataille pour la Ligue des Champions. Compétition qui tend les bras aux Brestois. Brest qui ne pourra pas jouer dans son stade en conditions optimales. Alors, est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle de voir Brest représenter le foot français en Ligue des Champions? 32-16 pour en débattre à 19h. Ça va être chaud.
Ça va être chaud. Ah ouais, tu penses?
Ouais, je pense.
Je pense qu'on n'aurait pas tous d'accord là-dessus.
Ah non, je pense pas.
Non.
À 18h30, Zinedine Zidane sera l'accusé du soir. Accusé de laisser passer de belles expériences puisque le Bayern se tournerait plutôt vers Ralf Rangnick. Et oui, parce que la barrière de la langue est importante pour le français. Le débat, c'est tout à l'heure à 18h30. À 18h45, le Casar enchaîné. Avec la causerie juste avant Lorient PSG grâce à Julien Casar et même une invitée surprise. Mais tout de suite, c'est la fin en Europe pour Giroud. Et ça te rend triste, Jérôme, je le sais.
Quoi, ma gueule ?
Depuis la Coupe du Monde, moi je les ai vus les matchs. Et on peut pas dire qu'Olivier Giroud en club, il soit incroyable.
Oui, elle a une grande gueule.
C'est pas l'autre de la part de Mbappé. Giroud !
Oui !
Tu te rends compte qu'Olivier Giroud, bah, il est inutile au jeu de l'équipe de France.
Sans elle, je ne voudrais pas un clou.
Des fois, je fais un peu de langue de bois. Mais...
Tous entre les gars. En Islande, c'est la même chose. Bon, il marque ce pénalty, d'accord, mais il a servi à quoi, Giroud, en Islande?
Yes, he's a Giroud.
On l'embrasse, Johnny.
De là-haut. Juste avant de parler de Giroud.
Tu l'as rencontré, Johnny, Manu? Vous avez fait une belle musique pour 2002,
non? Non, je ne l'ai pas rencontré, non.
Elle était bien, la chanson de Johnny en 2002.
On est champion, mais là, ça a bien marché.
Ça non, c'était on est champion.
Non, il a tout confondu.
On est tous ensemble. Allez, les bleus.
On est champion.
C'est quoi le débat déjà?
Allez, les bleus. Alors, on est tous ensemble.
Le débat sur Giroud. Mais juste avant, j'ai une annonce à vous faire. Vendredi, vous l'avez vu, on sera le vendredi 26. 26, c'est 13 fois 2. Donc, c'est quasiment un vendredi 13. Et donc, à cette occasion,
quasiment.
On va vous offrir jusqu'à 26 000 euros sur RMC. C'est un cadeau exceptionnel. Vous allez pouvoir gratter l'un des tickets RMC et peut-être repartir avec 26 000 euros. Pour vous inscrire, ça se joue maintenant. Vous envoyez chance par SMS au 732-16.
Le mec est un génie qui a créé ça.
Bien sûr. Il n'y a que des génies RMC. Chance au 732-16.
Il n'est pas payé pour avoir créé ça.
Vous avez 5 minutes pour vous inscrire.
On t'embrasse, Greg.
Ça s'appelle de la créativité. Bravo. Giroud, donc, c'était une info RMC Sport hier qu'on vous a mis sur notre. Ah, pour être jeune.
Ah oui, vous la connaissez, ouais.
Bah oui.
Quelle merde. Alors, franchement, c'est pas
ma préférée, voilà.
Ah bah non. Franchement.
Tu dis quelle merde.
Écoute la fin.
Déjà, attention. C'est hyper bien. Mais tu sais pourquoi t'as un mauvais souvenir, Jérôme? Parce qu'ils ont été nuls sur le terrain.
Bah oui.
T'aurais dû être le nouveau I Will Survive.
Excuse-moi, je devais y être. J'étais pas là, ils ont pas voulu de moi. Je suis arrivé juste après. Ça a un peu changé, hein.
En 2002, t'étais pro?
Bah, J'étais pro, j'étais déjà sur le toit de l'Europe. Non, j'étais limite sur le toit de l'Europe déjà.
Ah bon?
Ouais.
Pour moi, tu étais encore en centre de formation.
Ouais, oui, arrête.
T'étais où? T'étais à 3
j'étais
ou
à Monaco. À Monaco. Non, tout sans sûr. Oui, j'étais à Monaco. Ben oui,
à l'été 2002, là.
Pas le souvenir. Non. 2002, j'étais à Monaco. Vous n'allez pas m'apprendre ma carrière, je vous le dis.
Je m'en rappelle pas. Ah, ouais. Excuse-nous, Jérôme, mais on est méfiant sur tout ce que tu dis au début de ta carrière.
En 2002, j'étais à Monaco. Tu tapes Wikipédia.
Oui, mais bon, comme tu nous as menti sur plein de trucs.
Bah, écoute,
j'allais après, de temps en temps au stade et en plus, je regardais quasiment à chaque fois la SM.
Parce que tu as oublié, mais tu as oublié déjà l'année dernière ce que tu as fait. Donc, Manu, comment tu veux te souvenir en 2002 ?
Hier, bah oui. Non,
même
tout à l'heure, à qui j'étais tout à l'heure.
Alors, Giroud. Donc, info RMC Sport hier, Giroud a trouvé un accord avec le Los Angeles FC. À partir du 1er août, il jouera donc en MLS, quitte l'Europe. On se souviendra, dans sa carrière en club, bien sûr. On va parler que de sa carrière en club. De ce titre improbable avec Montpellier en 2012, puis ses grands clubs, Arsenal, Chelsea, et donc Milan pour sa dernière expérience en Europe. Pas toujours titulaire, il finit quand même avec un joli palmarès, une Serie A, donc en 2022, une Europa League avec Chelsea en 2019, même une Ligue des Champions en 2021, même s'il jouait peu à cette époque-là, plusieurs coupes nationales. Alors Giroud, selon vous, aura-t-il marqué le foot européen de club? 32-16 pour débattre. Giroud.
Foot européen de club.
Bah oui, c'est pour ça que on met clubs. L'équipe de France de côté, parce que quand même, en équipe de France,
voilà, vous voulez séparer en fait l'impact qu'il a eu dans les clubs, plutôt avec l'équipe de France.
Bah, c'est normal, c'est ce qu'il a fait en club.
Non, mais c'est normal, parce que en club, très souvent, on a dit.
C'est là où il y a des débats, Manu, justement.
C'est la petite bête.
Non, mais c'est là où il y a des débats. On ne cherche pas la petite bête, on est objectif, c'est tout. Donc moi, je veux bien qu'on nous dise. Olivier Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Une certitude, il sera bientôt battu par Kylian Mbappé, ouais. On le sait tous, mais pour l'instant c'est lui, donc bravo. Maintenant, excuse-moi de penser qu'Olivier Giroud n'est pas à la même hauteur qu'un Michel Platini ou qu'un Zinedine Zidane dans l'équipe de France.
Ça, on a donc, jamais dit ça.
Ou
même la question c'est pas ça.
Ou même qu'un Antoine Griezmann, c'est pour ça qu'on met pour ça qu'on met l'équipe de France de côté. En club, très souvent, mis à part à Montpellier où il est champion et
attends, Jérôme, avant de commencer à faire sa carrière, clairement la réponse pour toi, est-ce qu'il a marqué le foot européen?
Je viens de te le dire, non, pour moi non.
T'as pas dit pas clairement.
Pas comme il a marqué l'histoire de l'équipe de France.
Okay.
Et pour moi, c'est pour ça que c'est. Il a fait attention, je remets pas en cause sa carrière.
Donc, hormis sa carrière à Montpellier, pour toi, c'est rien en fait ce qu'il a fait en club.
Le problème, c'est que les stats sont là pour me confirmer. Les stats, c'est qu'il s'est pas imposé dans les clubs. Partout où il est passé, il était le remplaçant.
Parce que j'en ai une autre de stats.
Il est passé d'un statut de titulaire. Il est passé d'un statut de titulaire, Manu, à un statut de remplaçant. Et après, c'était un statut de remplaçant du remplaçant. C'est la réalité. C'est comme ça. Il est parti d'Arsenal. Il est à Chelsea. Il était
bizarre,
remplaçant du remplaçant.
Club vient le chercher.
Oui, sauf que
c'est quand même bizarre.
Par rapport à son profil,
il continue à être performant.
Et Manu, je vais te dire.
Ça doit être une quiche, en fait.
Mais c'est parce que. Va pas dire ce que j'ai pas dit.
Jérôme,
ce que
je veux
dire, c'est fais pas dire à Jérôme ce qu'il a pas dit.
Non, mais excuse-moi.
Les stats, je peux lui en sortir une de stats.
Mais les stats, excuse-moi. Quelqu'un qui a marqué l'histoire des clubs, l'histoire du foot européen en club, c'est un mec qui a été tout le temps titulaire. Tout le temps. Partout. Ah, tu peux avoir une mauvaise passe de temps en temps, mais partout. Je suis désolé. Est-ce qu'il a marqué l'histoire d'Arsenal? Non. Est-ce qu'il a marqué l'histoire de Chelsea? Non. Est-ce qu'il a marqué l'histoire du Milan? Et là, c'est pour ça que là, il m'a surpris à Milan.
Quand
il a signé à Milan, pour moi, c'était un remplaçant. Et l'année dernière, le titre du Milan, ils lui doivent aussi beaucoup. Malheureusement, ça a été à Milan, ce qu'il a fait à Montpellier, mais ce qu'il n'a pas fait à Arsenal, ce qu'il n'a pas fait à Chelsea, où
c'est
il est resté quand même très longtemps. Vas-y, alors confirme.
C'est pas vrai.
Dis-moi le contraire.
C'est pas vrai.
Surtout
pas...
toi, ancien Gunners et ancien Blues.
Autant son histoire avec Arsenal, lorsqu'il est arrivé la première saison, était très compliquée. Donc, il a eu beaucoup de moqueries, de railleries. Ça continue d'ailleurs encore aujourd'hui, malgré l'immense carrière qu'il a eue. Et derrière, la deuxième saison a été excellente. Il a fini meilleur buteur du club et parmi les meilleurs buteurs en première ligue. Qu'est-ce qui se passe?
Mais dans un Arsenal qui n'existait plus.
Mais justement, donc pourquoi lui imputer à lui justement le déclin d'Arsenal avec Arsène Wenger sur les dernières années? Donc il a vécu ça quelque part. Il en a été victime aussi malgré tout. Il a toujours été performant. Et je te donne une stat puisque tu parles des stats. Sur les 14 dernières années, c'est le seul joueur en Europe à marquer plus de 10 buts en championnat chaque saison. Sur les 14 dernières saisons. Personne n'a fait mieux que lui. Alors tu vas me dire Messi tout ça, mais ils n'ont pas joué 14 années d'affilée. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, Jérôme, il faut faire attention au stade parce qu'on peut leur faire dire tout et son contraire. Moi, ce que je constate, c'est que même s'il n'a pas toujours été un titulaire, derrière, il a toujours été demandé par des grands clubs et il a toujours été décisif au moment où on lui a demandé de venir. Tu me parles de Chelsea? Je me rappelle Lampard qu'il avait foutu sur le banc pour faire émerger des jeunes au niveau de l'académie de Chelsea. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement sous pression que le mec, il a pas d'autre choix que de rappeler Giroud sur le terrain et sur la dernière ligne droite dans la saison, je me rappelle plus laquelle c'est. Il marque quasiment à tous les matchs et il qualifie Chelsea pour la Champions League. Et je parle même pas de son épopée en Europa League où il marque 12 buts sur 14 matchs.
C'est vrai qu'il jouait quasiment que en Europa League.
Je suis pas d'accord avec toi.
C'est vrai.
Je suis pas d'accord avec toi.
Manu, il jouait que quasiment en Europa League.
Parce qu'il a pas joué tous les matchs, qu'il a pas marqué l'histoire des clubs dans lesquels il est passé. Au contraire, je trouve que malgré toutes les critiques qui sont abattues sur lui, il a fait preuve de résilience, il a fait preuve d'abnégation, et il a toujours travaillé, il a jamais bronché, il a jamais accusé.
Ça, on est d'accord.
Ouais, rentré dans la polémique, et il a toujours montré sur le terrain, malgré le peu de qualités qu'il pouvait avoir, qu'on pouvait aussi avoir d'autres qualités qui pouvaient faire la différence au très haut niveau. Donc oui, pour moi, Giroud a marqué de son empreinte le football de club d'Europe.
Voilà. D'accord.
Jérémy, okay, tu te positionnes comment entre les deux, là? Parce qu'il y a clairement divergence.
Bah c'est vrai que c'est un peu dans l'air, c'est que on est toujours à la course des statistiques tout le temps, mais je pense que pour Olivier Giroud, la stat qu'a dit Manu, je pense que c'est une stat très très importante parce que marquer plus de 10 buts de saison,
une régularité,
plus de 10 buts par saison sur plus de 10 ans, c'est énorme. Et voilà, Giroud fait débat parce que qu'on aime ou qu'on aime un peu moins ce genre de joueur parce qu'on a le droit. Je pense qu'il a joué dans un très grand club. Il a toujours été apprécié des joueurs, des staffs. Au niveau du comportement, c'est quelqu'un qui a toujours été exemplaire, qui a jamais lâché. La saison avec Montpellier et lui et les deux devant, c'est grâce à eux c'est à cause d'eux que nous on perd le titre. Et voilà. Et donc depuis Montpellier, il a toujours eu quand même une belle marge de progression. Il a marqué, il a tout le temps marqué. Et pour moi, il reste. Après, c'est quoi marquer l'histoire des clubs?
C'est d'être un joueur majeur dans tous les clubs où t'es passé.
Ça a toujours été un joueur majeur.
Attention, l'équipe de France. Encore une fois, je mets ça de côté.
On aimerait qu'il soit plus romantique sur le terrain. On lui aimerait qu'il ait davantage de qualité dans le football. Aujourd'hui, sur les grands attaquants générationnels,
il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec moi sur le fait que quand il est à Arsenal, alors tu me donnes des stats, bien sûr que moi je te parlais des stats de matchs joués en tant que titulaire. Tu peux marquer des buts et on l'a vu en rentrant en cours de match, et ce qui est son cas. Et là, il a fait preuve de régularité parce qu'en effet, tu as raison, Manu, de dire, et je veux pas
il a 38 ans là.
Je veux pas minimiser le nombre de buts qu'il a marqué parce que c'est impressionnant le nombre de buts qu'il a marqué pour un. Alors c'est comme ça et c'est pour ça qu'on le recrutait et qu'il a fait qu'il a duré en équipe de France, c'est que c'est un mec, c'est un vrai buteur. On est d'accord. Après je suis désolé mais il a pas été d'une importance folle. Quoi que tu me dises à Arsenal, et la preuve c'est que l'année
mais parce qu'il est arrivé à la mauvaise période.
C'était
le déclin d'Arsenal, d'Arsène Wenger, il a quand même sorti son épingle du jeu.
C'est vrai, Manu,
des meilleurs buteurs de première ligue dès sa deuxième saison.
Je suis d'accord avec toi, sauf que c'est pas de notre faute. On est obligé de constater aussi qu'avec Arsenal il a rien gagné, et c'était pas que ces années. En effet, parce que il y a eu beaucoup d'années. La preuve c'est qu'ils sont à la recherche d'un nouveau titre depuis votre titre à vous. Donc c'est que cette équipe, elle a du mal à s'imposer parmi les meilleures équipes en Angleterre. Là, depuis deux, trois saisons, c'est reparti avec un nouvel entraîneur, tant mieux. Mais malheureusement, t'es obligé de le juger aussi par rapport aux performances collectives du club.
Jérôme, joueur Giroud, oui. Tu dois pas simplement le juger par rapport à ce que tu viens de dire, tu dois le juger aussi par rapport à l'image qu'il aura laissé dans les clubs ou l'image qu'il aurait laissé dans le football d'une façon générale.
Alors ça, Manu, c'est un débat quand même. Est-ce que tout ça doit rentrer en ligne de compte?
Mais évidemment.
Toi, tu dis, il a fait le maximum, il a été exemplaire. Oui, mais est-ce que ça suffit pour
niveau,
marquer vraiment les clubs?
Le niveau, c'est quoi?
Est-ce qu'il n'y a pas le niveau
c'est
des joueurs?
C'est de repousser en permanence ses limites, c'est d'accepter les critiques et d'avancer malgré.
Mais ça, là-dessus, il est irréprochable.
Mais c'est ça le très haut niveau.
C'est
un exemple sur le plan mental.
Non, mais c'est de foot parce que à l'arrivée, Manu, je suis désolé, mais en Angleterre, tu prends.
Moi, c'est une inspiration pour beaucoup de joueurs.
Tu prends l'exemple. À Arsenal, il était loin d'être un titulaire indiscutable et le mec qui emmenait les autres. Mis à part la deuxième saison, comme tu me dis, où il finit meilleur buteur du club. C'est pas de ma faute. Hein, si on lui a mis toujours des mecs, alors peut-être plus jeunes et tout ça, en concurrence, et que c'est souvent ces mecs-là qui ont plus joué que lui. Lui, il jouait la Coupe d'Europe. Après, il est parti à Chelsea, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc. Quand tu es et en plus en championnat, on peut pas dire que Chelsea il était dans la meilleure période aussi. C'est pour ça aussi qu'il avait pas une équipe pour être champion. Est-ce que moi la question, je me dis, pour marquer l'histoire du foot européen, automatiquement pourquoi Olivier Giroud n'a pas été dans les meilleures équipes de première ligue, par exemple, pour gagner les titres.
Bah, il a été. Il a été à Arsenal, même
bah,
si
oui, mais ils n'ont rien gagné.
Alors attends, je voudrais qu'on donne la parole à Florian, qui nous rejoint.
Il
n'y
a qu'à Milan que ça a marché.
Je te trouve super dur, en fait.
Après, il y a aussi le petit côté un peu chance de l'équipe. Quand l'équipe tourne bien, tourne moins bien, il y a le côté un petit peu chance aussi.
C'est pas faux. Est-ce que Giroud aura marqué le foot européen de club? Florian est là au 32-7, Giroud.
Salut Florian.
Salut messieurs.
Bonsoir. Bienvenue Florian. Tu fais quoi dans la vie, Florian?
Je suis chargé d'affaires dans le BTP.
D'accord. Bon, intéressant. Intéressant. Ouais. Bon, écoute.
T'as des travaux à faire chez toi, t'as des trucs à construire.
Bon, on a toujours des travaux. On a toujours des travaux.
Un immeuble, Jérôme Rotel.
Construire le dernier étage de ton cerveau, ça serait bien.
De quoi? Non, mais il faudrait que je retravaille un peu ma statue c'est que j'ai devant chez moi, dans le jardin. Donc, mais bon, ça, on verra ça après l'émission.
Ouais.
Écoute, on parle d'Olivier Giroud. Toi, t'es sur quelle lignée? Est-ce que pour toi, Olivier Giroud a marqué le foot européen?
Non, je suis sur ta lignée à toi. Moi, comme je disais à votre collègue Standard, moi, je suis un type de tour depuis 15 ans.
Attends, dis-nous tout ça bien proche du téléphone, sans haut-parleur, sans kit main libre, et tout va bien se passer.
Ouais,
là, c'est mieux.
Tu conduis, Florian, mais c'est pas grave. Prends-le à la main, tu diras que t'es dans l'émission.
Je suis à tour depuis 15 ans. J'avoue, il a marqué le tour FC. Ça, c'est cool. Après, non, je disais, je suis ton avis, moi, Jérôme, je pense que c'est pas un attaquant qui aura marqué l'histoire du foot européen. C'est un joueur qui a beaucoup de mérite en termes de ce qu'il dégage, d'abnégation. Il s'est toujours battu, je trouve, pour avoir sa place, tout ça. Mais c'est pas un attaquant qui a laissé sa trace. Tu vois, c'est pas un Inzaghi, c'est pas un Raoul, c'est pas un Thierry Henry, c'est pas même un Lewandowski. Voilà, c'est pas quelqu'un. Je trouve qu'intrinsèquement, il lui manque quelque chose. C'est un bon renard des surfaces. Il a une carrière respectable, mais comme tu dis, il a atterri à Chelsea quand c'était pas le Chelsea du foufou, il a atterri à Arsenal quand c'était pas foufou, le bilan AC n'était pas dans une super période non plus, donc il a un beau palmarès sur le papier en termes d'équipe, mais je trouve pas que ce soit un attaquant, moi voilà, respect pour sa carrière, mais c'est pas quelqu'un qui va marquer.
Non, mais en plus là où je trouve que Manu, même Jérémy, manque d'objectivité, c'est que il y a le côté où on est français et on est fier d'avoir un attaquant qui a marqué l'histoire du football français comme ça. Il y a pas de souci, dire l'histoire de l'équipe de France, il l'a marqué. Il y a pas de problème. Après, si tu fais plus sur globalement, je vous pose la question, Jérémy et Manu. Olivier Giroud qui a marqué le foot européen des clubs, de clubs. Mais il y en a combien des joueurs comme lui en fait? Il y en a énormément. En fait, pour vous, vous mettez quoi? Vous réduisez
en fait,
pour marquer l'histoire du foot, vous êtes à plus de 50 joueurs, à plus de 100 joueurs, à plus de 200 joueurs. Parce que si c'est le cas, moi, je suis d'accord avec vous, je le mets dans cette catégorie de joueurs-là. Mais si tu réduis pour marquer le foot européen de club à 20, 30 joueurs. Ah, je suis désolé.
Le problème de Giroud, c'est qu'il a pas eu des saisons où il a fait de gros éclats, tu vois, pour sortir de la masse et pour pouvoir justement faire partie de l'élite, entre guillemets. Son problème, c'est sa régularité, en fait. Ça a été du début jusqu'à la fin, ça a été une régularité, mais c'est une carrière sans prétention, mais vraiment, pour moi, vraiment, importante à mes yeux, sur bien des égards et à bien des niveaux. Donc, quelque part, je me dis, c'est là où, en fait, ce débat sur Giroud, même encore aujourd'hui à 38 ans, on a l'impression qu'il doit toujours prouver qu'il a la valeur pour jouer au plus haut niveau. Même aujourd'hui, tu vois.
Toi, tu trouves qu'on le respecte pas assez, Giroud?
Je trouve que les critiques vont toujours dans le même sens et qu'en fait, on ne prend pas juste la totalité, en fait,
oui,
de la radio, en fait, oui, la radiographie. Donc, c'est dans ce sens-là, tu vois.
Oui.
Mais c'est en France que le problème un peu sur Giroud.
En Italie, ils ne parlent pas de la même manière.
Non. Non.
Et en anglais, il est très apprécié.
Ouais, il est très très apprécié. Ouais. Moi, je trouve que c'est beaucoup en France ce débat sur Olivier
Giroud.
Ouais.
Mais après, Jérémy, c'est normal. Je vais te dire en Italie parce que là, ce que moi je lui reproche pas, au contraire, il m'a agréablement surpris, c'est que Milan l'année dernière sur le titre du Milan, bah tu le sais parce que t'étais sur place. Milan lui doit beaucoup.
Ouais, non,
Donc
après, je suis d'accord avec toi. Après, le défenseur de Liverpool, il a dit qu'Olivier Giroud, c'était le défenseur qui lui avait donné le plus de mal.
Ouais, l'attaquant, tu veux dire.
L'attaquant qui lui avait donné plus de mal sur un match. Donc quand même, ça veut dire quelque chose. Après, c'est sûr, marquer l'histoire du foot européen. Si tu me dis, Drogba, il a marqué le foot à Chelsea. Si tu me dis Henry, il a marqué le foot Arsenal.
Ah, quand même.
Ok. Ouais,
tu peux pas le mettre dans la même catégorie
de ces joueurs-là. Avec Olivier Giroud. Ok. Mmh. Mais en termes de carrière, de régularité, d'exemplarité, je trouve qu'il est il est quand même, c'est
Van Dijk, le défenseur qui a dit ça. Van Dijk, Giroud.
Il peut se reconvertir préparateur mental à la fin de sa carrière. Mmh.
Ouais, tu penses.
Florian, tu voulais ajouter un mot
avec tout ce qu'il a pris.
Incroyable.
Ouais.
Ouais, Florian.
Ouais, bah, ce que Jérémy disait là, Drogba, tout ça, ça me fait penser aussi à Eto'o. Eto'o, il a marqué l'histoire du foot. Mais par exemple, un parallèle, je suis supporter parisien comme toi, Jérôme. Cavani, par exemple. Est-ce que Cavani a marqué l'histoire du foot européen? Certes, avec Paris, il a été meilleur buteur, il a empilé des buts, mais pareil. Mmh. Ouais, mais Cavani, parce que c'est parisien, mais Cavani, quand il partira, enfin là, il n'existe quasiment plus, il n'a pas marqué l'histoire non plus du foot, alors qu'il a marqué beaucoup plus de buts. Je trouve qu'il faut beaucoup plus pour marquer vraiment le truc. Quoi. Je trouve qu'il y a les Inzaghi, les Eto'o, les Raoul, R9 évidemment. Ouais, moi j'ai 35 ans, donc je parle de ceux qui m'ont vraiment marqué quand j'étais gosse, quand j'ai regardé la Champions League sur TF1.
Et Ibrahimovic par exemple, il a marqué le foot pour toi? Deux clubs. Le foot de club.
Ouais. Ouais, Ibra, ouais.
Il a marqué, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, pourtant.
Non,
mais c'est pour ça. Donc,
j'ai du mal à comprendre. Non, mais bah,
alors moi, je vais te dire, tu fais bien de parler d'Ibrahimovic, mais Ibrahimovic, Jérémy, tu as joué avec lui. Donc, tu le sais, je pense qu'Ibrahimovic, la question des entraîneurs de savoir s'ils le font jouer ou pas jouer, elle ne se pose même pas. Ibrahimovic, il l'a montré, toutes les stats de match joué, match où il est dispo, match titulaire, c'est quasiment du 100% tout au long de sa carrière.
Bah, et donc Cavani la plupart du temps, non?
Oui, mais donc, sauf que
Cavani, c'est pour ça, tu vois, j'ai du mal à comprendre. Cavani, il a marqué plus que buts que
mais c'est quoi marquer l'histoire en fait?
C'est ça, tu vois,
chacun ses critères après.
C'est exactement. Marquer l'histoire, c'est dès que tu passes dans un club. Et pas n'importe quel club, les grands clubs, ce qu'a fait Olivier Giroud aussi, il a joué dans les grands clubs. Je minimise pas les clubs dans lesquels il a joué. Mais comme Ibrahimovic, par exemple, partout où il est passé, il a gagné. Mmh. Il a gagné le championnat, il était titulaire, voire des meilleurs buteurs et tout ça. Et que la question se posait pas, savoir, tiens, cette année-là, ça a été compliqué, il a joué que 15 matchs, il a joué que 20 matchs, ou il a joué que la Coupe d'Europe, que l'Europa League. Non. Et les mecs sont titulaires. Les mecs, ils ont marqué l'histoire du foot européen.
On arrête là-dessus. C'est pas le cas. D'ailleurs, vous parlez de Zlatan Ibrahimovic, on en reparlera tout à l'heure à 19h30, puisqu'on continue notre feuilleton, la France a du talent. Ah. Et on parlera des grands matchs européens du début de l'ère QSI au PSG avec Blaise Matuidi. L'ancien milieu de terrain sera avec nous. On parlera notamment de ce Chelsea-PSG où Zlatan Ibrahimovic se fait expulser. Mais ça n'a pas empêché le PSG de se qualifier. Ce sera tout à l'heure, 19h30. Dans une seconde, Zidane passe-t-il à côté de bonnes expériences d'entraîneur? On fait entrer l'accusé.
J'espère qu'il écoute.
Et on va à Lorient également. Il y a Lorient-PSG à 19h. On vous donnera la compo, les compos. Et à Paris, ça fait tourner. Mais il y a du lourd quand même. A tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h28 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure de Rotten sans flamme débute maintenant avec Manu Petit, avec Jérémy Ménez et avec Jean-Louis Tour. Dans 15 minutes, ça sera le moment de Julien Cazard avec son Cazard enchaîné. Mais vous inquiétez pas, on sera là après 19h. Encore une heure de bon débat jusqu'à 20h. Et oui, Jean-Louis, tu me regardes comme ça, on se régale tous les jours.
Je te regarde parce que c'est toi le chef.
On a de la chance d'avoir Jérémy et Manu. De t'avoir, toi, le patron d'RMC.
Bien sûr.
D'avoir nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous écoutent de plus en plus nombreux.
C'est vrai.
Vous vous rendez compte, là, les audiences.
D'ailleurs, étonnant.
On a pété les scores.
Étonnant qu'autant de gens écoutent ça.
Ah, c'est étonnant. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant.
Parfois, c'est étonnant.
Mais on vous remercie, vraiment. Et puis, continuez. Ça veut dire qu'ils rigolent bien.
Ah, ça, c'est sûr.
Et puis nous aussi, parce qu'avec certains, on rigole.
Nous, on passe de bons moments.
Alors, certaines analyses.
D'ailleurs, il y aura, je vous rappelle,
Steve Savidan, Pascal Olmeta.
Une invitation surprise dans le Cazard enchaîné. Et puis, à 19h, ce sera le coup d'envoi de Lorient PSG. Xavier Grimaud est avec nous, notre envoyé spécial Moustoir. Salut, Xavier.
Salut, Jean-Louis.
Salut, Xavier.
Salut, Jérôme. Bon. Salut, messieurs.
T'as les compos. Ce que j'ai dit tout à l'heure, côté PSG, ça tourne, mais il y a quand même du lourd.
Oui, il y a quand même du lourd. Bah, notamment l'attaque avec Kylian Mbappé, bien sûr, qui est bien là, le capitaine, avec Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé, capitaine du soir, parce que Marquinhos est laissé au repos. Donc la triplette de devant, elle a quand même de l'allure. Je vous fais le 11 total en rappelant que Marquinhos, Hakimi, Barcola, Vitinha, Zahir Emery sont laissés au repos et sont hors du groupe, laissés au repos par Luis Enrique. On aura donc Donnarumma dans les buts, une défense avec Lucas Hernandez, Milan Skriniar en défense centrale, Nuno Mendes à côté gauche, première titularisation en Ligue 1 de la saison pour le Portugais. Yoram Zague, le jeune qu'on avait vu face à Clermont au Parc des Princes, est titulaire à droite. Trois milieux de terrain, Kangin Lee, Fabian Ruiz et Seni Mayulu, le jeune Titi parisien aussi, qui lui aussi était titulaire face à Clermont il y a 15 jours. Et donc Ousmane Dembélé à gauche, Kylian Mbappé à gauche et Gonzalo Ramos au poste de numéro 9. Voilà pour le 11 de Luis Enrique, qui a quand même de l'allure pour disposer de Lorient, qui est vraiment en grosse difficulté dans ce championnat.
Il y a ton bateau qui part visiblement.
Il y a le ferry, coup d'envoi dans 30 minutes. Le ferry lorientais qui sonne alors que les joueurs sont à l'échauffement. La compo lorientaise avec notamment Mohamed Bamba qui avait relancé l'équipe. Il est un petit peu en panne d'efficacité, il est sur le banc. Je vous fais le 11 très rapide.
Oui.
Yvon Mvogo, non tu veux pas, c'est comme tu veux.
Il faut retenir les 2-3 noms qu'il faut retenir.
Et ben Junior Koupi qui sera à la pointe de l'attaque à la place de Mohamed Bamba. C'est ça surtout le gros changement de Régis Lebris.
Merci Xavier. Évidemment, si Lorient prend des points, il y aura indignation de Jean-Michel Roussier, le président du Havre. Pourquoi le PSG biaise la lutte pour le maintien.
Pourquoi?
Ils font tourner, ils mettent des gamins.
On parle de l'effectif qui a tourné, qui a mis 4-1 à Lyon.
Oui, c'est vrai.
Ou on parle du HAC qui vient de faire un match important domicile contre Metz.
C'est vrai.
On verra si Jean-Michel Roussier se plaint.
On verra pour l'instant, personne ne s'est plaint.
On peut se plaindre. Après, on peut.
Mais les concurrents de Lorient peuvent peut-être dire que voilà, ils biaisent le championnat.
Mais son équipe fait ce qu'il veut, quoi, je veux dire.
Il fait ce qu'il veut, exactement, Manu. Et tout de suite, nous, parce qu'on fait ce qu'on veut aussi, on parle de Zidane.
RMC, Roten sans flamme.
Je m'en fous, moi. Mais je suis pas Didier Deschamps. Moi, je suis Jérôme Roten, sélectionneur.
Donc, c'est scandale. Prends-le la tête de con, là.
Faites entrer l'accusé.
Et on embrasse Coach Courbis. Hein. C'est le moment de le dire.
Bah oui.
En ce moment, on l'embrasse.
Bien sûr. Voilà,
on pense à lui. Alors, certains médias ont annoncé l'envie du Bayern de recruter Zinedine Zidane pour remplacer Thomas Tuchel à la fin de la saison. Finalement, le Bayern aurait jeté son dévolu sur Ralf Rangnick parce qu'on a vite su que ça n'arriverait pas côté Zidane parce qu'il reste sur ses principes. Il doit parler la langue des joueurs qui l'entraînent. Quitte donc à se fermer des portes. Impossible de le voir donc dans une institution comme le Bayern. Impossible aussi de le voir en première ligue, le championnat le plus attractif du monde. Alors Zidane, comme entraîneur, est-il en train de passer à côté de belles expériences? C'est ce que pense le procureur Jérôme Roten qui est là. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir à tous.
Zidane va être défendu par maître Jérémy Ménez. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Et le juge Manu Petit va trancher. Bonsoir monsieur le juge.
Bonsoir messieurs.
Vous écoutez les deux parties et après vous tranchez bien sûr avec votre honnêteté légendaire.
Voilà.
Alors monsieur le procureur, pourquoi Zidane fait des erreurs? Il passe à côté de bonnes choses?
Écoutez, oui, Zinedine Zidane, le problème de qu'il a depuis maintenant pas mal de semaines et de mois, c'est que il est hors jeu en termes d'entraîneur potentiel de club. Il a attendu très longtemps la sélection, on l'a vu, hein, de toute façon c'est pas moi qui le dis, mais même lui il l'a dit au bout d'un moment, et même l'ancien président de la Fédé l'avait dit, que il était là dans les starting blocks, il attendait de savoir ce que Didier Deschamps allait faire. Le problème c'est que Didier il a re-signé pendant 4 ans, donc il faut passer la vitesse supérieure et peut-être reprendre la direction de club. Et que je peux comprendre que quand il arrête le Real Madrid et qu'il veut entraîner l'équipe de France, et ce n'est pas possible aujourd'hui, qu'il ait à un certain moment des exigences. Tu t'appelles Zinedine Zidane, tu as gagné 3 Ligues des Champions à la tête, 3 ou 4, je ne sais même plus, à la tête en tant qu'entraîneur, ce qui fait de lui l'entraîneur français le plus capé en très peu de temps. Donc il a le droit de choisir et d'aller là où il a envie d'aller. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que le temps, il passe. Et que c'est pas moi, c'est lui-même qui l'a dit dernièrement dans une interview. Maintenant, il sent un peu plus de frissons, l'adrénaline revient, il a envie de retrouver un banc. Mais quand tu retrouves un banc, le problème de langue, tu dois le mettre de côté. Parce que la langue, ce que je sache, et lui est quelqu'un d'intelligent, parce qu'il l'a fait en Italie, il l'a fait en Espagne. En très peu de temps, tu peux apprendre la langue du pays. Si tu vas en Angleterre, je pense que l'anglais, déjà, il doit le maîtriser plus ou moins. Mais en 6 mois, tu arrives à le maîtriser. Donc, me dis pas que c'est une barrière. Si t'entraînes en Allemagne, l'allemand, Bah oui, peut-être plus problématique que l'anglais à apprendre, mais tu peux y arriver. Et tous les entraîneurs étrangers ont réussi à parler allemand au bout d'un certain temps. Et n'empêche qu'en plus, le vestiaire, et grâce à la Ray Bosman, mais ça date, le vestiaire, il parle plusieurs langues aussi. Les joueurs, il y en a beaucoup, il y a des étrangers partout, que ça soit en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France. Et donc ça doit pas être un frein, la langue. Le problème, c'est que il est trop exigeant aujourd'hui, et que le fait d'être trop exigeant montre que il n'a pas forcément envie de revenir plus que ça en tant qu'entraîneur. Et ça, pour moi, c'est une déception, parce que Zinedine Zidane, on sait l'icône qu'il est en France, même quand il fait des trucs pas bien, c'est des trucs géniaux qu'il fait. Donc ça, c'est l'image qu'il a en France. Ben moi, j'ai envie de le revoir entraîner, voir le tester encore plus. Quand t'es capable d'emmener ton club, le Real Madrid, trois fois sur la plus haute démarche européenne, oui, j'ai envie de le voir entraîner un grand club européen. Là, on parle du Bayern Munich, on parle peut-être de la Juve, on parle des clubs anglais. Il y a plein de clubs qui peuvent t'intéresser, des clubs avec des gros moyens, des moyens de gagner de nouveau une Ligue des Champions, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Aujourd'hui, le Bayern Munich, pour parler du Bayern, ils vont faire demi-finale de alors ils n'ont pas gagné championnat d'Allemagne, mais ça fait un bout de temps qu'ils le gagnaient. Donc c'est aussi une façon de dire, ben, l'année prochaine, de nouveau, il va falloir refaire tourner le compteur dans notre pays, en Allemagne. Et puis, l'excitation de la Coupe d'Europe, parce que, à ce que je sache, ils font demi-finale de Ligue des Champions aujourd'hui. Donc, c'est pas un club qui est aux abois. Donc, pour tout ça, je ne comprends pas le manque d'excitation de sa part quand ces clubs-là lui proposent quelque chose. Donc, oui, c'est une déception. Et je me dis, en effet, peut-être que son image, elle est un petit peu faussée, comme très souvent avec Zinedine Zidane. D'accord, l'image qu'on lui renvoie, c'est toujours l'image du genre idéal, de l'entraîneur idéal.
Il manque de passion.
Il a pas plus envie de se mettre en danger que ça.
D'accord.
Et pour moi, c'est l'essence même du sportif de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau. Bah oui, au bout d'un moment, t'es obligé de te mettre en danger.
Okay.
Tu prends des risques en partant dans un certain projet. Et si lui a pas envie de prendre ces risques-là, bah c'est qu'il lui manque un petit peu peut-être de passion de coach. Et c'est ça qui est un peu décevant, en fait.
On va laisser la parole à la défense, donc, maître Jérémy Ménez.
Non, moi je pense pas du tout que ça soit une question de passion. Je pense que Il a commencé sa carrière d'entraîneur avec le Real Madrid, le club où il avait arrêté sa carrière de joueur, et du coup après il a tout gagné avec le Real en tant que coach. Donc après on pense tous qu'il a sûrement l'envie un jour de diriger l'équipe de France, ou pourquoi pas la Juve, vu qu'il a joué aussi à la Juve, il parle très bien l'italien. Donc voilà, on connaît un peu Zinedine Zidane, c'est quelqu'un sûrement d'un petit peu réservé et qui sait ce qu'il veut. Donc je pense qu'il attend le bon choix pour lui, parce que il veut être sûr.
Il passe pas à côté de belles opportunités, de belles expériences.
Pour moi, non, parce que je pense que il sait ce qu'il a envie. Il a une belle famille, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc je pense que sur ça, je pense qu'il sait déjà ce qu'il veut. Donc il attend l'opportunité et un jour ça viendra, parce qu'il nous manque tout sur le banc de touche.
Ça peut être long d'attendre l'équipe de France.
Ça peut être long. Il n'y a pas que l'équipe de France.
Alors, monsieur le juge.
Bah moi, je suis très partagé. En fait, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme sur le fait que de se mettre en danger, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs, voire des sélections qui se sont manifestées ces dernières années, encore là récemment, tu vois. Donc je peux comprendre qu'ils prennent son temps, tout ça. Mais en même temps, je comprends ce que dit la défense également sur ce dossier-là, parce que je me dis, on ne sait pas ce qui va se passer à l'Euro. Didier a re-signé, je ne souhaite pas Didier se plante à Kikine de France, bien au contraire, mais dans un tel scénario, il est envisageable que d'un seul coup, il y a un revirement au sein de la fédération, que d'un seul coup, la porte qui était refermée après le
premier. Donc il attend l'échec, quoi.
Dans ces cas-là, t'entrais jamais, en fait.
Non, parce
qu'à chaque fois, il y aura une grosse compète.
Il ne peut pas laisser finir, les gars. Il y a ça au niveau de la sélection française.
Mais surtout, c'est trop tard, en plus.
Peut-être qu'il a d'autres vues sur d'autres clubs également à l'heure actuelle, parce qu'il y a quand même des grands clubs aujourd'hui qui sont en turbulence avec leurs entraîneurs. Liverpool, ils n'ont toujours pas trouvé.
Mais il ne veut pas aller en Angleterre.
Les gars, alors je ne sais pas si c'est confirmé, mais ça fait quand même pas mal de temps, d'après ce qu'on a pu me dire, qu'il apprenait l'anglais. Donc, vous ne savez pas si.
Vous connaissez
la communication de Zizou, c'est toujours extrêmement secret, il n'y a rien qui fuit en permanence.
C'est même trop secret.
Donc, moi, je me base sur ce qu'il a fait quand il est joueur et entraîneur. Il ne fait pas les choses dans la précipitation. Donc, s'il prend une décision, je pense que c'est quelque chose du mûrement réfléchi. Donc, s'il a pris des cours d'anglais il y a X mois, c'est pas, ça, probablement pour de bonnes raisons.
Et tu peux pas l'expliquer ça, en fait. Et je comprends pas parce que on est d'accord et tu le connais bien mieux que moi. Mais je l'ai vu aussi. J'ai vu tout ce que représentait Zinedine Zidane, la communication qui est très souvent, trop souvent calculée, encadrée et même trop.
Ce qui est normal parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça prend des proportions.
Oui, d'accord. Ok, c'est normal ou pas normal. Mais pour parler de foot, je pense qu'il a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de cadré comme ça. Mais il peut aussi annoncer ce que tu viens de dire, ça transpire la passion. En fait, moi, là où je suis déçu, c'est que quand j'entends les clubs là qui recherchent des entraîneurs, des grands clubs,
t'as Liverpool, Manchester, il y a beaucoup de rumeurs.
C'est le seul aujourd'hui qui est libre de tout contrat à avoir un tel palmarès, et c'est le seul qui ne dit rien. En fait, juste dans l'histoire, j'en vois pas d'autres.
Pas.
En fait, il peut dire tout ce que tu viens de dire. En effet, la langue, c'était un problème.
Mais en même temps, j'apprends
l'anglais. J'ai envie d'entraîner et pourquoi pas en Angleterre.
Quand je te dis, il apprend l'anglais, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vérifié ou vérifiable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te répète ce que quelqu'un de confiance m'a dit.
Non, mais je suis d'accord, Manu. Mais moi, j'ai envie. Et s'il le fait pas, c'est que, il a son idée derrière la tête. En effet. Mais on est aussi en droit de l'attaquer là-dessus. Parce que je suis désolé, comme tu me parles, et t'as raison, Liverpool, j'avais Manchester, même oublié que Klopp, Manchester United,
le Bayern,
Chelsea, ils en ont pris 5 hier, peut-être que Pochettino,
c'est pour ça,
ils
ont coupé la tête. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici la fin de saison.
La Juve, j'en sais rien, mais la Juve, c'est pas. Il y a eu le Brésil. Alors à la sélection, je peux plus ou moins comprendre quand t'es attaché et t'as marqué l'histoire
du Brésil.
Non, mais c'est pour ça, je peux comprendre. Oui, mais sauf s'il veut une sélection, c'est toujours pareil. Parce que là, on a l'impression qu'il attend l'échec de Didier.
C'était 20 ans. En sélection, on est d'accord.
Mais si Didier il reste là, parce que alors attention,
il a re-signé jusqu'au mondial aux États-Unis, c'est ça?
Excuse-moi, ça fait deux ans et demi.
Oui, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer très rapidement dans le football, dans les deux côtés.
Oui, mais donc moi ça me dérange un peu en fait, parce que t'as l'impression qu'il refuse des grands clubs et qu'il se dit écoute. Pourquoi pas souhaiter l'échec de Didier Deschamps à l'Euro? Comme ça, la place va se libérer. Parce qu'en gros, c'est un peu ça. Parce que si l'Euro est réussi, il n'y a aucune chance que Didier arrête.
Didier, je pense qu'il était dans la même position quand Laurent Blanc était à la tête de la sélection. Tu vois ce que je veux dire?
Tous les entraîneurs.
Voilà, c'est le lot de tous les entraîneurs. Ils ne souhaitent pas que les mecs se plantent, mais secrètement, oui.
Allez, on arrête.
Sauf que c'est pas les mêmes personnages. Dire, là, on parle de Didier Deschamps avec Zinedine Zidane. Laurent Blanc, avec tout le respect que j'ai, il avait gagné qu'un championnat de France. Dire Laurent Blanc, c'est pas non plus, il le montre le meilleur entraîneur au monde, tu vois. Donc, que Didier Deschamps arrive avec tout ce qu'il avait gagné avant.
Et donc, il va falloir un jour que tu parles, en fait, que tu nous dises exactement c'est quoi ton problème avec France 98, toi.
Ah oui, carrément, là.
Ouais, parce que t'attends quand même beaucoup de joueurs au sein de l'association.
Mais pourquoi?
Tu voulais pas qu'on fasse un débat un jour là-dessus?
si, moi, ça m'a
quel joueur j'attaque.
Et on invite des anciens 98 pour parler ici.
Mais là, on a peu le temps, mais bon.
Est-ce que vous entendez des gens entre vous pour inviter des copains?
Si de quoi, pardon?
Est-ce que vous entendez bien entre vous pour inviter des copains?
Oh, ouais, c'est la grande.
Voilà, c'est la grande famille. Voilà, t'as la réponse.
Allez, dans une seconde, le casar enchaîné, à tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h46 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme. Oui, on passe un bon moment avec Manu Petit, avec Jérémy Ménez, avec Jean-Louis Tour, avec vous. Appelez au 32-16 aussi, participez à l'émission, on se régale. Ça va être le moment de Julien Cazard avec son Cazard enchaîné. Et après 19h, Jean-Louis, encore un bon programme.
Il y aura le coup d'envoi de Lorient PSG et on va s'attaquer aux Brestois, puisque tu dis que c'est une mauvaise nouvelle de les voir en Ligue des Champions. Ah. Tu nous expliqueras pourquoi. Et vous pourrez débattre.
J'ai rien contre les Brestois, moi.
Allez, on se détend.
Mais c'est la vérité.
Je
suis breton,
Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Ah, juste avant Julien.
Oui, ah, oula, oula.
But d'Emmanuel Macron.
Mais non.
Si.
Oh. Oh.
On vient de recevoir une alerte RMC Sport.
Non.
Le chef de l'État corse l'addition sur penalty.
Non, mais t'es sérieux là?
Ah oui, je suis sérieux.
Tu m'as coupé pour ça là?
Oui.
Donc le jour où on attaque l'Ukraine, on fait quoi là? Parce que si on s'interrompt pour ça,
on va pas couper Rotten sans flamme pour ça.
Oui, mais s'il marque contre l'Ukraine.
Ah oui, peut-être.
Bonsoir. Je sais pas si j'ai envie de continuer. Bonsoir. Il y a Varnier qui me souffle des horreurs dans le casque. Il s'est cru au bistrot, l'hôtel. Je travaille, moi. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 25 avril 2024 et c'est l'anniversaire de quelqu'un qui n'est pas dans le football, mais qui indirectement a marqué l'histoire du foot. C'est Al Pacino. Ah. Al Pacino a 84 ans aujourd'hui. Il a marqué le cinéma pour un rôle qu'il a mis au Randy Cole, le rôle célèbre d'un personnage du foot.
L'entraîneur, hein.
Le parrain?
Non. Mais non, pas le parrain, je parle pas d'Olmeta. Non,
il a joué le rôle de l'entraîneur.
Voilà, l'entraîneur.
Comment il s'appelle?
Régis Lebris.
Le fameux discours.
Régis Lebris.
Et l'autre,
le discours, l'enfer du dimanche.
Il y a même des entraîneurs aujourd'hui qui se basent sur ce discours-là.
Ouais, et ben parce que c'était en fait un biopic sur Régis Lebris.
Non, mais les deux, là.
Mais c'est pas une. Souvenez-vous.
Écoutez.
Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe.
C'était avant la remontée.
On est en enfer ici, messieurs. Dans cette équipe, on se sort l'équipe. C'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir.
C'est Régis.
C'est ça le football, les mecs.
Régis.
Ça fout des frissons. Hein.
C'était Pierre Sage, moi.
Alors, ça c'est un autre. Tu l'as vu, le stratège, le film avec c'est Pierre Sage, celui avec Brad Pitt. Oui. Confonds pas les films. Il y a Al Pacino, c'est Régis Lebris, et le Brad Pitt, c'est Pierre Sage. Attends, il paraît que Franck va à Liverpool. Aujourd'hui, voilà, ça fout. Alors, vous savez que pourquoi ça s'appelle l'enfer du dimanche, le film?
Vas-y.
T'as déjà regardé Lorient-Nice le dimanche à 13h. Allez, sommaire. Dans cette édition, je dois avoir une pensée pour une personne qui a vécu une terrible injustice.
Oui, j'ai pas peur de dire Stéphanie Frappard. T'as vu Jérôme?
Ah oui,
c'est horrible. Horrible.
Stéphouille, comme tu l'appelles. Stéphouille n'a pas été retenue pour arbitrer à l'Euro 2024.
Oh, c'est terrible.
Ce sera Clément Turpin et François Le Texier.
Pourquoi?
Pourquoi une telle injustice? Elle n'a pas fait assez pour être reconnue à sa juste valeur d'arbitre française? Parce que c'est une femme, c'est ça? Elle n'a pas été assez nulle pour être prise parmi l'élite? Pardon, messieurs les grands décideurs de l'UEFA, mais si vous avez regardé comme moi tous les matchs de Stéphanie Frappard, vous auriez vu qu'elle est largement aussi nulle que Clément Turpin. Oh oui! Largement! Elle n'a rien envie aux hommes! Hein? Dans tout ce qui est erreur de jugement, faute d'arbitrage, manque de communication, défaut de consultation de la VAR, arrogance, inefficacité, analyse dans les zones de vérité, défaillance, sentiment de panique dès que le niveau s'élève, incapacité à expliquer ses choix, elle a toute la panoplie d'arbitres français de haut niveau. Et vous l'apprenez pas? Mais faut faire quoi en fait? Faut faire quoi pour faire l'Euro? Faut mettre un middle kick dans le tibia d'un joueur comme Tony Chaperon? Ok, c'est pas une surdouée, c'est pas comme le jeune Mathieu Vernis qui nous a fait une masterclass lors de Lyon-Brest. Mais le plus dur, c'est de confirmer. C'est facile de faire un grand match. Stéphanie, c'est tous les matchs. Match après match, saison après saison. C'est pourquoi je demande au président de la République qui, au lieu de marquer des buts à la con dans des matchs en bois, ferait mieux d'intervenir.
D'ailleurs, elle arbitre le match. Emmanuel Macron.
Monsieur le Président, quand vous aurez fini le match, allez voir Stéphanie Frappard. Et vous savez que vous avez la capacité de mettre des femmes comme elle à des postes stratégiques, vous l'avez prouvé. C'est à propos de gens compétents à des postes stratégiques, justement. Revenons sur la meilleure d'entre nous.
C'est ton invité surprise?
C'est un peu mon invité surprise. Notre ministre des Sports, Amélie Oudéa Castira. Hier, nous avions fait partager son analyse de l'entraîneur du PSG, souvenez-vous.
Oh non.
Non, on l'a pas.
Il faut l'écouter. Manu écoute. Jérémy.
La machine est enrayée, mais ça va bien.
C'est bloqué, mais c'est normal. C'est Macron qui. Ça y est.
Non, j'étais hyper contente parce que je trouve que les commentateurs avaient été un peu durs après le match à l'aller, y compris à l'égard de Mbappé. Il nous ressort à nouveau là un énorme match. Moi, je me dis à chaque fois, c'est vraiment la marque des champions, quoi. Moi, je trouve que la posture, la position de Luis Enrique, son voilà, cette dimension tactique, tout ça est très intéressant à suivre.
Oui, merci, on va s'arrêter là. Voilà, donc elle est formidable.
Hein. Oui, elle est formidable.
Elle est incroyable.
C'est normal, qu'est-ce qu'elle connaît bien.
Tu pensais qu'elle parlait aussi bien tactique, aussi bien de football.
Elle parlait des commentateurs, j'espère qu'elle parlait pas de nous.
Ah si, de toi.
Je sais, parce
que derrière t'as dit que c'est rien vous.
Heureusement qu'elle est là, elle sur les mains en fait.
Eh ben ouais, t'as calmé. Eh ben justement.
Non, mais c'est vrai qu'elle parle de toi, c'est fou.
Oh, et l'autre. Pour montrer son attachement.
Moi non, mais elle a cité Manu.
Ouais. Elle avait dit Dugas, Manu, un peu Jérôme.
Manu.
Pascal Olmeta.
Non, elle avait dit Manu, il est super.
Par contre, Manu, tu te rappelles que c'est elle qui avait dit que Zidane avait fait un triplé mythique en finale de Coupe du Monde. Donc, si tu avais cru que tu avais marqué un but,
non, mais moi, ça me dérange pas. Hein.
Fort de cet attachement à la tactique, elle a voulu passer ce soir à Lorient. Oui.
Ah bon,
oui, parce que pendant que Emmanuel Macron, lui, il est avec Stéphanie Frappard dans un match en carton, elle va là où ça se passe. Pour faire un coucou au coach espagnol Luis Enrique et donner son avis sur le match de ce soir, on a Veno Micro dans le vestiaire.
Bon, ce soir, c'est le dernier coup de collier pour le titre.
Pardon, excusez-moi, coach.
Bonjour, président.
Bonjour, président.
Bonjour, Pierre Marquez.
Je vous dérange pas longtemps, j'ai amené quelqu'un qui a très envie de vous parler.
Bonjour à tous, les enfants.
Ah, super, Marie Poppins.
Sérieux? Je l'ai jamais vu en vrai.
Game Booze.
Le second degré.
Oui, c'est vrai. Si j'étais vraiment Marie Poppins, on lui demanderait de cadrer toutes les frappes de Colo. Et de réparer tout ce qui casse.
Pardon, Kix.
Et vous êtes qui?
Mais enfin, c'est Amélie, la ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Alors, pour les Jeux Olympiques, on pourra pas vous donner Kylian, il sera plus chez nous. En revanche, pour les Jeux Paralympiques, Colo, il est chaud.
Mais je viens pas pour ça. Je viens pour parler tactique.
Oula.
Oula, on va saigner les oreilles.
J'ai compris, on va pas vraiment saigner.
Si.
J'ai bien observé tous les derniers matchs, là, contre les Real de Barça, l'Olympique Rennais.
Madre de Dios.
Et j'ai adoré. Il y a du peps, il y a du dynamisme. Et ce soir, contre les Merlans,
les Merlus,
il faut tout donner. Garder la dynamique avant le match contre le Bayern de Dortmund.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même Giorgia Meloni a dit moins de conneries.
Attention, faut pas croire, c'est pas n'importe qui en face. Et leur stade, c'est quelque chose, hein. Leurs supporters, ils ont du répondant, ils ont de l'entrain, ils ont du punch.
Du quoi?
Il devait y avoir écrit du punch sur sa fiche, mais elle a mal lu.
Et puis leur fameux mur jaune dans les tribunes. Ils ont du mérite, les ultras, d'encourager leur équipe, parce qu'avec ce mur devant eux, ils doivent rien voir. Mais peu importe, ils chantent quand même.
Je conviendrais volontiers que les femmes nous sont supérieures, si ça pouvait les dissuader de se prétendre nos égales.
Il a dit quoi?
Que c'est une truffe.
Bon, parlons tactique maintenant.
Je vais me sentir mal.
Alors moi, je vois bien le beau marocain, là, milieu axial, hein, logique. Le petit à moustache à gauche. Le qui sourit tout le temps, là, avec les grandes oreilles. Bon, devant, à droite, à gauche, en fonction de là où il se met, le mignon avec les tresses. Kylian, la veine des champions. Ah, il fait ce qu'il veut parce que, bon, ben, comme tous les vrais champions. Et puis, on court quand on n'a pas la balle. Et quand on a la balle, ben, on court. Voilà.
Non, mais c'est incroyable. C'est exactement ce qu'il y avait prévu. Je suis subjugué par votre chance tactique, madame.
C'est fou, elle a dit exactement la tactique du coach.
Mais je suis pas sûr que ça soit rassurant, Dembouze. Pas sûr du tout.
En tout cas, elle est forte. Franchement, quand elle parle foot, on a hâte d'être au JO. Elle va nous parler de tout le sport.
On va se régaler.
Dans cette édition, nous reviendrons sur un joueur qui a fait parler de lui. C'est Barcola, vous savez, ces derniers temps. Et alors, tout le monde se dit, est-ce qu'il va pas aller en équipe de France?
Ah bah, il va y aller.
Oui, tout le monde se dit ça parce que tu dis ça, toi. Hein,
non, parce que comme j'ai dit tout, ça, donc
comme
il va me suivre.
Oui. Parce que tu fais comme tous les.
T'as un peu entendu ça.
Tu parles comme tous les footix. Ceux qui savent. Très bien que c'est pas lui. C'est pas lui le plus important à mettre en équipe de France. Vous voyez de qui je veux parler?
Moi, oui, mais.
Il y en a un qui a récidivé.
Non.
Simon Dutin a frappé.
Non.
La rédaction en chef de cette émission m'a censuré.
Non, voilà. On t'a pas censuré, on a voulu te protéger.
Simon Dutin va voir Barcola Loro et peut-être un autre joueur également. C'est maintenant qu'il faut
l'écouter. Je voudrais Del Castillo, moi. Je voudrais qu'il prenne Castillo, un petit peu de French Flair dans cette équipe. Un remplaçant naturel à Antoine Griezmann, le successeur d'un Nabil Fekir. Voilà, ce pied gauche, ce flair, cet instinct.
Voilà, donc ça y est.
Mais elle est où la blague?
Del Castillo, le French Flair en équipe de France.
Non, mais il est énorme, Del Castillo, en ce moment.
D'accord.
Mais qu'est-ce qu'il a avec Del Castillo, en fait?
Je vais balancer, j'en ai rien à foutre. De toute façon,
c'est
ce qu'il m'a dit. Vas-y. Il m'a dit. Alors, je lui ai dit, non, mais t'es pas sérieux, Simon, en fait. Tu décodes, tu joues un rôle. Il dit, écoute-moi bien. Sur 90% des matchs de City, tu remplaces Bernardo Silva par Del Castillo.
Mais n'importe quoi.
Non, il a pas dit.
N'importe quoi.
Sur la tête de mon fils.
Mais jamais, il a jamais dit.
C'est un humoriste.
Non.
Il n'y a pas de blague.
C'est la force de l'after. Vous serez jamais ça. Vous dégagez vos Barcola.
Simon Dutin, la question.
Mais on l'embrasse, Simon.
Oui, oui, non, mais on l'embrasse. Non, il est en fin de contrat.
Non.
Il est en fin de vie.
Ah, alors, on l'embrasse, il est excellent. Et il a sa conviction, c'est Del Castillo, que ça s'appelle la liberté d'expression.
Alors, franchement, c'est un super mec.
C'est vrai que, non, mais vous avez des avis un peu moyens.
Bah oui.
Heureusement, il y en a un qui vous défend. C'est Paulo Breitner. Paulo Breitner, il aime les gens comme vous qui ont une expérience. Paulo Breitner, le consultant allemand, il a encore parlé de vous avec tendresse et avec amour.
On en vient à parler de Griezmann et là, Mark Schwarzer dit je suis pas fan moi de Griezmann. Je trouve qu'il travaille pas assez dur pour son équipe.
Ouais, il faudrait vraiment faire ce débat sur les anciens professionnels dans les médias.
Oui, bah, ceci étant, dire que Griezmann travaille pas assez pour son équipe,
non, c'est un peu bizarre. C'est que lui, il veut carrément faire un débat sur les anciens professionnels. Oui,
je vois pas le lien en fait.
Ouais. Non, parce que Mark Schwarzer, c'est un ancien joueur de foot.
Oui,
ouais. Donc lui, il dit une connerie. Du coup, Polo dit faudrait faire un débat sur tous les anciens professionnels qui parlent à la radio.
Donc il englobe tout le monde.
Ouais.
Pourquoi les journalistes, vous avez la science infuse, vous?
Moi, je suis pas journaliste.
D'accord, mais lui non plus.
En tout cas, ce qui est pas mal, c'est d'expliquer les.
Lui non plus, il l'a pas.
Bah oui, mais parce qu'avant, les champions du monde, mais pas d'échecs, hein, Manu.
Merci, Julien.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Dans une seconde, Brest en Ligue des Champions. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le foot français? On lance le débat.
Il y en a d'autres, des mauvaises nouvelles.
Posez la question, que vous osez poser la question. Mais pourquoi tu me fixes moi?
Jérôme, je suis persuadé que Jérôme va encore soutenir les puissants. je soutiens rien du tout. Je constate.
C'est un constat. Restez avec nous pour savoir.
C'est un constat.
Si Manu a raison ou pas. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h01 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme. C'est pour maintenant avec Manu Petit, avec Jérémy Ménez ce soir et avec Jean-Louis Tour, bien sûr, comme tous les jours. On est là encore une heure jusqu'à 20h avec des bons débats. On va parler de Brest, peut-être en Ligue des Champions dans un instant. Il y aura un beau rythme des supporters et puis le quiz en fin d'émission avec un super cadeau à vous faire gagner, Jean-Louis.
Le super cadeau à vous faire gagner, c'est une semaine dans une résidence Lagrange. Vous pourrez aller comme ça en vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et puis c'est parti entre Lorient et le PSG au Moustoir. Le match en retard de la 29e journée de Ligue 1, Xavier Grimaud.
Oui, c'est parti depuis 2 minutes dans un Moustoir évidemment à guichet fermé, avec notamment un beau parquage parisien. Il est rempli, 700 parisiens ont fait le déplacement. Le ballon est pour les parisiens. Une première situation avec un corner dégagé par la défense de Lorient. On rappelle juste ce qu'il faut pour que le PSG soit champion. Il faut gagner ici à Lorient et il faudra attendre éventuellement que Monaco ne gagne pas face à Lille dans le match de 21h, et Paris aura son 12e titre de champion de France officiellement et pourront peut-être le fêter à l'arrivée à Paris sur l'aéroport, le tarmac de l'aéroport. Pour l'instant, il faut déjà gagner contre Lorient. Les Parisiens ont évidemment le ballon, mais pas d'occasion. 3 minutes de jeu au Moustoir, 0-0.
Merci Xavier. Et puis la moitié de 26, c'est 13.
Donc
il y a vendredi,
le jeu.
C'est le 20. On sera vendredi 26.
Oh, c'est
donc
génial.
Nouveau jeu pour gagner jusqu'à 26 000 euros sur RMC. Vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, gratter un des tickets RMC et gagner 26 000 euros. Pour cela, il faut envoyer chance tout de suite par SMS au 732-16. Chance par SMS au 732-16 et vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Tout de suite, Brest en Ligue des Champions. Ça vous excite ?
Manu, rentre chez toi.
On est en 2023, les gars. Vous avez vu la merde qu'il y a dans le monde. Vous n'avez pas envie d'arrêter de penser à vous, à votre gueule en permanence.
Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tourière.
Si ça arrive, les 64 clubs, j'arrête toutes mes activités dans le football. Ça, c'est clair.
Ah, je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer.
Ils ont déjà tué une partie du football. Là, ils sont en train de saccager. C'est un génocide footballistique.
Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver.
Le football, c'est une pyramide. En haut de la pyramide, t'as les droits télévisuels. En bas de la pyramide, t'as les joueurs. Donc quand tu secoues la pyramide un peu, ça a des retombées pour les joueurs.
C'est surtout un blindage, ton cœur d'artichaut.
Emmanuel Petit est monté.
Emmanuel Petit,
oui. Ouais.
J'aime vivre, j'aime la bouffe, j'aime le sexe, j'aime la vie.
Elle est plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches.
Eh oui.
Un beau résumé de
je comprends pas, c'est un truc sur Brest ou sur moi là? Non, mais elle est plus amoureuse.
C'est ça.
Donc faut que tu t'arraches.
C'est pas grave.
Alors là,
on aura d'autres.
On a donc
qui risque la queue comme tout le monde.
Alors, lundi, on a donc appris que l'UEFA ne donnait pas de dérogation au stade brestois pour qu'ils puissent faire leur match avec les fameuses tribunes tubulaires du stade Francis Leblay, pas des tribunes en dur. La conséquence, soit ils accueillent la Coupe d'Europe l'an prochain dans un stade à moins très peu rempli, 5000 personnes seulement, soit bah, il faut se délocaliser ailleurs dans la région. Alors les dirigeants affirment qu'ils continuent à travailler pour chercher une solution, pour jouer à Brest absolument. Donc il y a cette problématique-là. En plus, on peut imaginer les difficultés que pour avoir le club, pour garder ses meilleurs joueurs, pour se renforcer également. Brest, c'est un des plus petits budgets de Ligue 1. Alors donc, est-ce que pour tout ça, ce serait une mauvaise nouvelle pour le foot français d'avoir Brest en Ligue des Champions?
C'est une honte.
Ça me fait au 32-16 pour débattre. Qu'est-ce qui est une honte?
Non mais vas-y Manu, si tu veux commencer.
Non, mais c'est une honte. Sais, c'est une honte pourquoi?
Bah parce que justement la question elle se pose pas envers
c'est
Brest.
Le débat la honte ou c'est
le
ce que
débat
je
en fait vous trompez de victime ou de coupable. Coupable. Il faut le curseur faut l'envoyer en Suisse à ces gens là qui
alors attends Manu, avant de nous dire qu'on se trompe, écoutons quand même Jérôme.
Ouais bah et vous après, trompez quand même.
Bon, moi je vais te dire que je me trompe pas, j'observe juste déjà pour répondre à la question de Jean-Louis, bien sûr que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne nouvelle de voir Brest, même s'ils ont du mérite. Attention, je te vois arriver. C'est pas une bonne nouvelle de voir Brest faire la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions, sachant que c'est une compétition où on a très souvent, et les stats le montrent, le palmarès le montre, très peu souvent de bons résultats, de très bons résultats avec des équipes moyennes. Ouais. Je te parle pas.
Comment tu peux dire que c'est pas une bonne nouvelle?
Mais c'est pas par rapport à.
Alors que c'est l'essence même du foot.
Non mais d'accord. Par rapport à ce que je viens de te dire, Manu, tu vas être d'accord avec moi. C'est que Brest, en effet, par rapport au budget, automatiquement le budget montre le niveau des joueurs. Le niveau des joueurs qui superforment cette année, tant mieux pour eux, ils le méritent d'être là. Sauf que s'ils sont là. C'est qu'il y a eu trop de défaillances des plus gros.
Ah, on est d'accord.
D'accord. Donc, ça veut dire que les plus gros ont quand même les moyens d'avoir une meilleure équipe que Brest l'année prochaine. Parce que Brest, en se qualifiant pour la Ligue des Champions et en faisant cette année-là, ils vont perdre leurs meilleurs joueurs. Mmh. Et des joueurs qui vont être certainement très courtisés, des joueurs importants qui ont fait des différences. Tout à l'heure, on rigolait sur Simon Dutin. Del Castillo a fait une très belle année. Très certainement qu'il aura des offres bien supérieures à Brest, que Lesmelo au milieu de terrain aura des offres aussi, que le gardien peut-être aura des offres, que l'attaquant.
Okay, mais tu vas en venir où là? Parce que là, j'ai du mal à saisir.
Ça veut dire que
en fait, le message que t'envoies, c'est si vous n'avez pas l'argent, si vous n'êtes pas un grand, ne jouez pas, n'espérez pas jouer à
Champions League. Non, mais pas du tout.
Je dis juste
que c'est une mauvaise nouvelle pour le football français, parce que d'autant plus avec ce que l'UEFA vient de.
Donc t'as raison. Il faudrait une super ligue. Il faudrait que les pauvres jouent ensemble et les riches jouent ensemble.
D'autant plus, je vais te dire avec, et c'est pour ça qu'on fait le débat, parce que sportivement. Comme beaucoup trop de clubs français malheureusement et Lens et l'essence même de cette année en Ligue des Champions, quand ils se qualifient pour la Ligue des Champions, ils s'affaiblissent. C'est le problème. Peut-être que Lille sera dans ce cas-là. On a mais posé la question.
Moi, tu vois qu'ils s'affaiblissent. Moi, je vois que ça fait grandir un club.
Mais non,
de
ça fait pas grandir. Ça nous fait pas.
Mais bien sûr, de la base jusqu'en haut de la pyramide, ça fait grandir un club.
On a vu avec Lens, ça leur a plombé leur début de saison parce qu'ils se mettaient beaucoup de pression sur la Ligue des Champions. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs.
Ouais, mais ils ont fait une belle épopée. Enfin, ils ont fait quelques bons matchs, ils ont fait quelques bons matchs, mais il n'y a pas de souci, mais ils ont fait quand même pas mal d'émotions.
La victoire contre Arsenal.
Et derrière, ils sont pas très loin d'accrocher aussi le wagon.
Et bah, si on parle d'émotions, donc s'il y a bien.
Si c'est tout bonnet sur le plan sportif
non,
et financier
Manu,
pour eux, donc
s'il y a bien quelque chose,
je comprends pas, Jérôme.
En fait, s'il y a bien quelque chose qui me contrarie aujourd'hui, c'est la décision de l'UEFA. Parce que. Outre le fait qu'elle soit injuste envers un club et un stade qui reçoit des milliers de personnes depuis le début de saison et depuis beaucoup de saisons, et cette année c'est plein tout le temps à Leblay, en championnat la tribune elle tient bien, pourquoi elle tiendrait pas les tribunes pour l'UEFA? L'UEFA a décrété ça, c'est un scandale, mais c'est la réalité. Aujourd'hui Brest va jouer, donc s'ils veulent jouer à Leblay, devant 5000 personnes. C'est ridicule. On n'est pas au Luxembourg. On n'est pas aux îles Féroé. Là, on est en France. Donc, 5000 personnes sur un match de Ligue des Champions, c'est déjà pas une bonne nouvelle, parce que s'il y a bien quelque chose où là,
Parce que l'UEFA met la pression sur le club avec leur intérêt élitiste.
C'est même pas sûr qu'à 5000, ça puisse passer parce qu'ils veulent des stades plus courants.
Non, mais attends, moi, j'ai une question
en plus. Donc, on va aller jouer à Guingamp ou à Rennes Attention, c'est pas à côté, hein, c'est pas des villes voisines. Ça veut dire que tu vas pas déplacer tout un stade. Non, mais ouais, mais Guingamp ou Rennes, à l'arrivée, ouais. Il faudra peut-être tendre la main. Mais n'empêche que s'il y a bien quelque chose, et on est passé par là, où tu peux créer une sensation, abattre un gros quand tu t'appelles Brest, c'est de te mettre dans la peau à domicile que c'est un match traquenard. pour les grands, les grosses équipes. Imagine l'Inter de Milan arrive à le blé. Ils se disent mais où on est, où on est. Et là tu les surprends parce que t'as plus de grinta, plus de high, et puis tu te transcendes. Mais devant 5000 personnes, ça peut pas exister, ça, ce mode traquenard, et encore moins dans un stade que tu ne connais pas. Donc l'image du foot français, elle va en pâtir encore une fois. Je suis désolé.
Mais
oui. L'image du foot français. Parce qu'on va avoir que des défaites.
Mais excuse-moi, je veux dire, c'est année après année, c'est un peu comme ça. Je suis désolé, en Champions League, hormis Paris qui cette année encore a la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais là, globalement, les clubs français, on a cette année, ça a été quand même, on a failli, on a qualifié justement la plupart des équipes à la deuxième partie de saison. La plupart sont passées à la trappe, mais il nous reste Marseille et Paris. C'est quand même une belle saison pour le football français. Donc moi, des épopées, enfin moi, le foot, c'est ça. Et puis je sais pas, j'ai envie de vous poser la question. Vous me rappelez sur quoi est basé les fondements du sport en Europe? C'est sur les montées, les descentes. Ça veut dire quoi, la méritocratie? Ça veut dire que quand un club comme Brest, avec le petit budget en début de saison, c'est pas programmé, c'est surtout programmé pour ne pas descendre, et au final ils vont vers une
ils superforment,
ils arrivent sur une fin de saison extraordinaire, et c'est toute la région qui vit autour du club.
On est d'accord, ça.
Mais c'est génial. On est d'accord, mais c'est génial. Sauf que t'as des mecs qui ont pondu un règlement tellement élitiste que on ne peut plus voir le football avant. À la mode d'aujourd'hui. On peut l'adapter aujourd'hui, sauf que bon, non.
Après, c'est pour des principes de sécurité, hein.
Mais quel principe de sécurité? En Ligue 1, j'ai encore vu le match contre Monaco. Le stade, il est plein. Ça a toujours été ça, quasiment, durant toute la saison, grâce aux performances de l'équipe.
Oui, c'est pour ça que les dirigeants.
Mais moi, j'ai envie de leur dire, les gars.
Les faire changer d'avis.
J'ai envie de leur dire, ça me rappelle l'Uznac. J'ai envie de leur dire, les gars, mais ça sert à rien de vous sortir les tripes. Ça sert à rien de faire voir tout ce que vous faites. Alors, depuis,
c'est un club qui est monté de National en Ligue 2 qui n'a pas pu monter
à cause des infrastructures. Voilà,
c'est le même principe, mais
un peu comme Concarneau qui joue dans plusieurs stades.
C'est quoi? On veut des ligues fermées à l'américaine? Allons-y.
On veut vraiment, véritablement.
Mais on te dit pas ça, Manu.
Mais non, mais moi j'ai envie de dire, si tu empêches un club justement de pouvoir grandir, comment tu veux qu'il change?
Excuse-moi, mais alors moi je suis d'accord avec toi.
Comment tu veux qu'il change si on leur met des bâtons déjà? On leur dit, monsieur, avant la fin de saison, ah non, l'année prochaine, comptez pas sur la Champions League, votre stade, il est pas.
Alors, si le club...
Alors que on a quand même fait 38 journées, non, pas 38 journées, 17 journées à domicile cette saison.
Alors, si je vais dans ton sens, et après je donne la parole à Jérémy, Manu, si tu me dis, tu veux que le club se transforme et devienne donc un des plus.
Moi, je dis qu'aujourd'hui, ils peuvent jouer un match de Champions League chez eux. C'est des conneries que disent les gens de l'UEFA.
D'accord. Alors, imagine. Non, mais de toute façon, ça, on peut dire que c'est des conneries.
Parce que
à l'arrivée,
ça leur convient pas, parce que c'est pas assez glamour, c'est pas assez riche, c'est pas assez élitiste. On rentre pas dans le cercle privé de la Ligue des Champions.
Alors, pour parler du club, Manu. Voilà. Manu, pour parler du club. Et t'as raison sur toute la ligne. Tu vois, moi franchement, ils m'ont.
Et on fait moins de rentrées d'argent aussi avec Brest pour les droits
télé,
etc.
Donc quelque part, mais on fait gagner des points.
Pour aller dans le sens de ce que tu dis.
Non, mais là où Manu, je te rejoins, c'est que c'est l'adrénaline que nous donne Brest cette année. Franchement, depuis un bout de temps, tu regardes
pas imaginer
tous les week-ends le match
de la saison dernière.
C'est vrai.
Depuis la saison dernière.
Et regarde le match à Lyon où ils perdent 4-3. Contre le cours du jeu, parce qu'ils font un match incroyable, et t'as envie de les soutenir dans cette quête à l'Europe. Ok, mais une fois que t'as dit ça, Manu, t'as raison, ils le méritent, et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Et donc je trouve ça même scandaleux de leur retirer leur stade. Mais bon, alors, c'est l'UEFA qui a décrété. Mais Jérémy, pour répondre un peu à la question de Manu, il y a la méritocratie, et ça c'est le cas, et ils vont la faire, la Coupe d'Europe. Mais l'année prochaine. Avec l'effectif de Brest, on sait très bien que ces clubs français-là ne peuvent pas lutter dans la quête des meilleurs joueurs. Donc ils vont s'affaiblir l'année prochaine.
Mais ça fait partie du foot. Ils l'ont eu sur le terrain. Et donc tu peux pas leur enlever ça. Ils ont aussi eux le droit de vivre des émotions, de faire des Ligues des Champions, etc. Après oui, c'est sûr. C'est peut-être problématique par rapport au club PUP du championnat de France. Mais le mérite, encore une fois, ils l'ont eu sur le terrain. Donc moi, je trouve ça beau. Et puis voilà. Donc,
oui, mais pour avoir du mérite et pour avoir des résultats, et on est passé par là, parce qu'on en a fait ce genre de match, et il y a un vrai fossé, de toute façon. Ils vont s'en rendre compte l'année prochaine, entre les matchs juste de Ligue 1, même
souci, on est avec les matchs Jérôme, de Ligue 1. C'est pas là la question.
Oui, mais si tu, à l'arrivée, moi, les dirigeants.
Mais tu préférerais quoi? Que ce soit un grand club français qui prenne la place de Brest, en sachant qu'on fait illusion la plupart du temps, hormis PSG?
Pas la place. Moi, je veux pas que, on dise, ah bah non, Brest, ils ont fait une super année, mais bon, vous, l'année prochaine, vous allez vous affaiblir, donc, on préfère que ça soit Lyon qui fasse à votre place. Non,
c'est moi, pas je ce préfère que, qu'il fasse comme Lens, c'est qu'ils engrangent l'argent de la Champions League.
Je dis que ça va trop pour moi, c'est pas une bonne nouvelle pour la Ligue des Champions parce que c'est allé trop vite pour Brest. Mais automatiquement, l'année prochaine,
la jurisprudence de Lens, ils sont remontés de Ligue 2 il y a quelques années. Ils vont jouer la Champions League l'année prochaine.
Alors,
ils se sont enrichis, se sont renforcés.
Mais l'année prochaine, on sait très bien que sur les six matchs, ils vont être dans le dernier chapeau, dans un stade où tu vas avoir 5000 personnes, où tu vas jouer à Guingamp ou à Rennes. Mais franchement, ils vont pas prendre 2 points. Ils vont pas prendre 2 points, on va prendre des claques.
Franchement, dans le football actuel, après, je te dis pas qu'ils vont terminer premier de leur poule.
Jérémy, soyez honnête. Regarde les résultats des autres clubs qui ont des moyens supérieurs à Brest avec des meilleures équipes et des meilleurs joueurs. Regarde les résultats, mis à part du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais c'est catastrophique.
Donc il faudrait faire quoi, Jérôme ?
Il faudrait
interdire à tous les clubs qui sont dans la dimension, qui naviguent dans les mêmes eaux que ces clubs intermédiaires, de leur dire n'espérez jamais un jour jouer.
Il faut des dirigeants qui sont dans l'anticipation. Un peu plus que la Ligue.
Brest n'est pas.
Nouveau stade en 2027.
Après, ça se trouve, Brest n'est pas peut-être au début du.
Je leur souhaite.
Quelque chose de bon.
Nouveau stade en 2027, le club va peut-être largement se développer.
Attention au syndrome nouveau stade.
Stade de 15 000 personnes, ils pourront jouer à Ligue des Champions sans problème.
Syndrome nouveau stade, en général, les équipes, elles se plombent. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité, regarde Clermont.
Dans une seconde, on continue le débat avec Nordine, qui veut intervenir. Brest en Ligue des Champions, est une mauvaise nouvelle pour le foot français. Toujours 0-0 entre Lorient et le PSG. On retourne sur ce match dans une seconde, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h17 sur RMC, on est là, on est bien, on continue de parler de Brest. Et oui, ça fait du bien de parler des équipes qui performent, qui surperforment cette année. Oui, même si on les critique un peu. Non, mais on critique pas Brest, on critique juste le fait j'assume, pas Manu Petit, pas Jérémy Ménez. Jean-Louis,
j'en veux plus de Lens, de Brest.
Voilà, j'aime pas mon avis sur ce débat, j'écoute. Je me régale.
T'es entre les deux.
Ouais, j'écoute. Le feuilleton PSGOM à 19h30. La France a du talent. On sera avec Blaise Matuidi, l'ancien milieu de terrain du PSG, revenir sur les gros matchs européens du PSG au début de l'ère QSI.
Ancien coéquipier de Jérémy. Hein.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Qui a joué avec qui dans ces cas-là ?
C'est lui qui a joué avec moi.
J'attendais pas autre chose.
Ouais, bah. Il n'a pas le choix, de toute façon. Jérémy, il n'a pas le choix.
Allez, Lorient PSG, où en est-on, Xavier Grimaud ?
Eh bien, on joue depuis 20 minutes, 18 minutes exactement. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain, on se régale. Il y a eu des situations quand même, une grosse occasion pour Lorient, notamment avec Imran Louza, bien lancé dans la profondeur. Il n'était pas en position de hors-jeu. Le centre en retrait pour Eman Kari, le jeune joueur prêté par le Paris Saint-Germain, qui croise trop sa frappe. Et la première situation parisienne, il y a un instant, avec une frappe de Mbappé entrée de surface, sortie par Yvon Mvogo, la tête à l'instant de Julien Laporte captée par Donnarumma. 19 minutes 0-0 et total soutien à Manu évidemment.
Alors j'allais dire Xavier, sur Brest qui est le club que tu suis aussi, t'as des trucs à ajouter de ce que t'entends ou...
Non, alors, moi je suis vraiment dans la thèse de Manu Petit. Là en plus on sait que Brest c'est un one shot, hein. Ils joueront pas l'Europe tous les ans. Je pense que l'UEFA a fait preuve d'une sévérité un peu trop grande, en tout cas sur le côté sécuritaire des tubulaires, parce que le stade est sécur à Brest, clairement. Oh, la frappe de Dembélé, c'est dedans. Et le but parisien, Ousmane Dembélé qui a récupéré le ballon sur la droite de la surface de réparation. Il a repiqué sur son pied gauche. C'était simple, très simple. L'intérieur du pied, il n'y a pas une puissance folle, mais c'est parfaitement passé. Ça manquait d'agressivité du côté de la défense de Lorient. Ben voilà. Le Paris Saint-Germain a fait la première partie du travail pour fêter son titre de champion de France. Dès ce soir, il mène 1-0. Le but de Dembélé à la 19e.
Très bien.
Pour finir, pour l'instant, ils n'ont pas
baissé les bras.
Baisser les bras, exactement. Ils veulent faire des recours juridiques, tous les recours juridiques possibles. Jouer devant 5000 places à Brest, ça enchante évidemment pas le club parce que, en plus, la tribune ferait pas vraiment 5000. C'est pas possible. Faudrait l'amputer en plus pour mettre les caméras. Donc, ça se trouve, il y aurait 4000 personnes. T'enlèves les partenaires, t'enlèves tout ce que tu veux. Ouais. Ce serait ridicule.
C'est aux îles Féroé, en fait.
Ouais, exactement. Donc, pourquoi pas se délocaliser. Guingamp, ça paraît le plus simple. C'est à 1h15, c'est mais le moins loin.
C'est pas les ennemis, Guingamp, non
Xavier. Non, mais regarde, Lille a joué à Lens, la Ligue des Champions sous Claude Puel. Donc, franchement,
Xavier,
ça se ferait sans souci à Guingamp si tout le monde est d'accord.
Je suis d'accord, je vous comprends. Et encore une fois,
Milan, c'est tout petit.
Moi, c'est pas contre le club, ce que je dis. Bien sûr qu'ils l'ont mérité et ça fait plaisir de voir des équipes comme ça surperformer, détrôner les plus grands, les plus riches qui travaillent très mal. Et tant mieux, et tant pis pour eux, tu vois. Mais ça leur apprendra à mieux travailler. Mais après, quand je dis que c'est pas une bonne nouvelle, la réalité, c'est ça. Imagine, Xavier, ce qu'il vient de nous dire. Tu peux pas jouer devant 4000 personnes. Alors, donc, tu vas jouer à Guingamp à 1h15 dans un stade que tu connais pas, qui est en plus l'ennemi un petit peu de
Brest.
C'est 18 000. Et franchement, ils le rempliront. Hein. Il n'y aura pas que les Brestois qui vont voir.
Brest, c'est combien?
Brest, c'est 15 000 actuellement.
C'est 15 000, mais bon, ils ont leurs habitudes, Manu.
Donc, ils supprimeraient 10 000 places, l'UEFA, par rapport aux critères.
Les trois tribunes fermées. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Et tu peux me dire tous les recours possibles. Déjà, tu vas perdre.
Est-ce qu'un club,
tu vas perdre du temps à faire ces recours-là?
Ah, bah, bien sûr, on va pas t'obliger à la faire. Mais bon, refuser 20 millions d'euros, ça paraît compliqué.
Il peut dire, je laisse la place à un autre club français, mais vous filez les 20 millions.
Peut-être que la Ligue ou la Fédé peut décider de ne pas inscrire Brest s'ils n'ont pas envie de se plier à ça. Oui.
On devrait donner la possibilité au club de pouvoir se retourner.
Mais c'est pour ça.
Imagine les fonds qu'ils vont devoir investir pour changer de statut. Est-ce qu'ils sont programmés pour ça sur les prochaines années?
Non, mais bon, c'est pas. Mais c'est pour ça que, en gros, encore une fois, vous avez peut-être pas compris mon ressenti et mon avis là-dessus.
Si, j'ai compris.
Ça fait deux pour Paris. Kylian Mbappé, 25e but en Ligue 1 cette saison pour Kylian Mbappé. Voilà, ils ont accéléré un tout petit peu les Parisiens. Ils ont évidemment fait exploser la défense de Lorient. C'est parti de la gauche. Je pense que c'est un centre de Nuno Mendes, me semble-t-il. Mbappé qui reprend premier poteau. Et ça va tout doucement dans le but de Mvogo. La frappe est peut-être contrée de Kylian Mbappé. On la revoit au ralenti. Mbappé qui est touché au milieu du terrain. Le petit contrôle, il ouvre pour un Nuno Mendes. L'appel, il est parfait. Le centre, Mbappé a suivi. Est-ce que c'est pas un CSC d'Ibrahim Louza? On va confirmer ça, en tout cas. Où la touche peut-être
fait 2-0.
En tout cas, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Et en tout cas, la lutte pour le maintien n'est pas faussée. C'est la bonne nouvelle de ce deuxième but du PSG.
Monsieur Roussier va être content.
Ça devrait aller. Ouais. Nordine nous rejoint au 32-16. Brest en Ligue des Champions, est-ce une mauvaise nouvelle pour le foot français?
Salut Nordine.
Bonsoir tout le monde.
Salut Nordine, supporter de l'OM, Nordine.
C'est ça, supporter et suiveur de l'Olympique de Marseille. J'ai un problème, moi, avec l'intitulé, avec la question. La question, ce n'est pas pourquoi Brest en Ligue des Champions, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le foot français?
C'est pourquoi l'OM ne fait pas la Ligue des Champions?
Pourquoi les gros ne sont pas au rendez-vous? Il y a des gros, il y a Lille, il y a Monaco qui sont situés parmi les top 4, mais je suis désolé, dans une Ligue 1 à 18, pour Lyon, quand bien même la transition au Last Textor fut compliquée, et pour l'OM, bon, qui n'a pas vraiment d'excuses, entre la 7e et la 10e place, je répète, d'une Ligue 1 à 18, c'est là le réel problème, parce que si Brest se qualifie à Ligue des Champions, bon, ils vont se qualifier, même s'ils sortent en premier tour, parce que c'est pas la phase de
en préliminaire,
à 24 équipes, à 28 équipes, pardon. Donc, si Brest sort et que les gros sont au rendez-vous dans la plus grande des compétitions, on va dire bravo à Brest. Ils ont fait une bonne compétition. Leur stade, que ce soit on espère que ce soit l'Euro de Roux ou qu'ils peuvent jouer à le blé, il sera forcément plein et il y aura la fête. Tu vois, même s'ils prennent aucun point ou un ou deux points, on dira c'est triste, mais c'est pas grave. Mais à l'inverse, si les locomotives passent le premier tour, vont au 8e, font un quart, arrachent une demi ou vont loin dans les autres compétitions, que ce soit la Ligue Europa ou la Conference League, on ne dira rien sur Brest. Quand ce sont les autres pays de l'Union de Berlin ou Girona, cette année, on dit c'est beau, il y a de l'exotisme. Ou Real Sociedad, on dit c'est beau, il y a de l'exotisme, parce qu'à côté, les gros de leur pays performent, et quand ça arrive en Ligue 1, on va taper sur celui
qui est... Non, mais on tape pas,
le moins fort, mais quand même, là, depuis tout à l'heure, on parle de Brest, alors c'est pas de Brest qu'on doit parler. Brest est tributaire du championnat du niveau des autres.
Le problème, Nordine, c'est un tout, en fait, c'est un tout. Et tu as raison de parler des surprises qu'il peut y avoir aussi dans les autres championnats. Tu as raison.
Et tant mieux, il faut qu'il y en ait, comme l'a dit Manu.
Mais le problème, c'est juste le problème d'infrastructure. Quand tu es à un stade, eux, ils n'ont pas problème de
ça. C'est pas normal, Jérôme, on est d'accord.
Non, mais on est d'accord que ça a été décrété par l'UEFA, c'est comme ça, ce n'est pas normal. Maintenant, c'est le règlement. Donc, ils ne vont peut-être pas aller au-dessus du règlement sous prétexte que c'est Brest et c'est le championnat de France, même si c'est une anomalie, parce que tu l'as très bien dit. Non, mais Nordine, ce que je veux dire, c'est que jouer dans un stade de 5000 personnes ou 4000 personnes, c'est pas possible sur un match de Ligue des Champions.
C'est pas possible. D'accord. Mais si
donc ils vont jouer ailleurs. Et ailleurs, je vais te dire, toi tu me parles de d'excitation, d'émotion, d'adrénaline. Mais ça n'existera pas. Il n'y aura pas le mariage.
Ça n'existera pas.
Non, il n'y aura pas
le supporter brestois mais, de jouer le premier tour de Ligue des Champions. Même à Copenhague, même à Minsk, même à Azerbaïdjan, même à Bakou, ils vont le jouer le tour de Ligue des Champions.
Mais je, Nordine, je suis d'accord avec toi, sauf que tu me parles
d'un.
Non, mais tu me parles d'un one shot. Moi, je te dis juste que ne pas jouer chez toi, déjà, c'est un traumatisme, même pour les supporters. Tu vas jouer à Guingamp chez l'ennemi. Allez, on va dire, comme nous disait Xavier, ça a 1h15, 1h30. Donc, ils vont venir à Guingamp, il n'y a pas de problème, il va y avoir 18 000 personnes. Le problème, c'est que si tu joues le tour préliminaire, là, tu sais très bien que l'effet traquenard, chez les gros, surperformé, ça n'existera pas. Ça n'existera pas parce que on l'a vécu, je l'ai vécu aussi. Quand tu joues pas dans ton stade, même s'il est plein et tout et qu'il y a l'adrénaline à son max, je peux te dire que ça va se ressentir sur les performances. Et
d'accord, automatiquement, mais ça ne répond pas à la question. Bah c'est pas forcément une nouvelle parce que la nouvelle,
c'est pas une bonne nouvelle parce que
elle dépendra des clubs adverses, des autres clubs français qui eux.
Mais non, mais Nordine, non.
Brest, c'est le côté Brest. J'explique, c'est t'as ton armoire, t'as des habits que tu vas mettre pour un entretien d'embauche et t'as des habits que tu vas mettre pour aller à la plage, pour sortir, pour t'amuser. Brest, c'est le côté exotique qui va nous exciter peut-être le mardi, le mercredi, mais certes en jouant au Roudourou. Mais après, t'as ton costume qui doit répondre aux événements, qui doit répondre aux grands événements. Oui. Marseille, Lyon ou Lille, Monaco. S'ils vont en quart de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions, toi et moi, on aura oublié le fait que Brest soit arrivé et jouer au Roudourou. C'est ça le problème.
Non, mais tu as raison, ta vision des choses. S'il y a des équipes qui performent, comme c'est le cas cette année, tu vois, en Coupe d'Europe avec Paris et Marseille, il n'y a pas de problème. Ça, tu le mets. Mais moi, ce que je reproche, et même quand les équipes, elles performent comme Paris et Marseille cette année, ce que je reproche, c'est que les autres clubs français, parce qu'on en a les moyens, parce que on a joué dans ce championnat, et ce championnat, il est compliqué. Il est souvent décrié, mais il est compliqué. Et il est d'un bon niveau, même si certains ont du mal à l'entendre.
Okay.
Cette année, un petit peu moins. Ben, moi, j'estime que la deuxième, troisième, voire quatrième équipe qui te représente en Coupe d'Europe, en Champions League, peut rivaliser avec des très bonnes équipe européenne.
Allez, on arrête,
ce qui sera malheureusement pas le cas si Brest fait la Ligue des Champions.
On remercie Nordine qui est venu débattre au 32-16. À bientôt. Tu reviens quand tu veux. Et dans une seconde, notre feuilleton PSG-OM, Blaise Matuidi, l'ancien milieu du PSG, est avec nous dans Rotten sans flamme. Le PSG qui mène 2-0 en ce moment à Lorient. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h30 sur RMC. On est là, on est bien. Dernière demi-heure de Rotten sans flamme avec Jérémy Ménez, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour. Dans 15 minutes, ne ratez pas le quiz de Julien Cazard avec un super cadeau à vous faire gagner. Et on a des directs, on a encore un bon débat, un bon ring des supporters. On y va, Jean-Louis.
On y va sur le direct. Lorient PSG, ça a été très chaud sur le but parisien, Xavier Grimaud.
Ouais, très chaud. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Dembélé, Mbappé pour les buteurs. À l'instant, une tête d'Isaac Touré. Et Donnarumma, il est quand même très fort sur sa ligne, on le sait. Là, il fait un arrêt magnifique. Hein, il se couche au sol, main droite pour dégager cette tête d'Isaac Touré, tête piquée qui clairement prenait le chemin du but. Toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Et donc, je vous rappelle que si ça en reste là, que Paris gagne et que Monaco ne bat pas Lille ce soir, le PSG sera officiellement champion ce soir. Le feuilleton continue dans Rotten sans flamme.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et
but, but de Boli. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions.
RMC.
J'avoue que je pensais que ce serait beau, mais pas comme ça quand même.
Marseille et le PSG en demi-finale de Coupe d'Europe.
C'est parti, allez.
Oh oui, allez, oh,
quel but.
Quel but.
But de Renaud Nkoti. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes.
La France a du talent.
La France a du talent, c'est tous les jours dans Rotten sans flamme. Les grands moments qui ont marqué l'histoire européenne de Marseille et du PSG. Hier, on a parlé de la période 91-93 pour l'OM et cette victoire en Ligue des Champions. Ce soir, le PSG. Et on a ciblé le début de l'ère QSI. Il y a eu des grands matchs, notamment un Chelsea-PSG qui est resté dans les mémoires en Ligue des Champions. Et on va en parler avec Blaise Matuidi, l'ancien milieu de terrain de Paris qui est en direct dans Rotten sans flamme.
Salut Blaise.
Salut.
Bienvenue Blaise.
Blaise.
Salut Blaise. Ça va, on est avec
Ça va Blaise.
On est avec Jérémy Ménez.
Ça va, toi, en forme?
Ça va bien, ça va bien.
Impeccable, ça fait plaisir. Oh, dis-leur que c'est toi qui as joué avec moi surtout, hein.
Ah hein oui, en effet.
Quelle humilité.
En effet, je courais pour toi.
Mon Blaiseau. Après, je te donne le ballon. Ça fait plaisir, mon Blaiseau. Tout va bien?
Ça va très bien.
Blaise, est-ce que tu peux raisonner Jérémy, vu qu'il est cramé, il veut pas encore arrêter. Donc moi, je lui dis, arrête.
Ah, il a la passion, c'est bien, il a la passion. Tant qu'il a la passion, il faut qu'il continue.
C'est ça, il faut.
C'est le plaisir avant tout de jouer au football.
Mais c'est bientôt la fin, je te rassure quand même.
Alors on voulait se rappeler, Blaise, avec toi, ces grands moments de Coupe d'Europe du début de l'ère QSI. Donc il y a eu par la suite les éliminations marquantes, la remontada Manchester United qu'on a encore tous en tête, mais ça commence à remonter, ce qui s'est passé notamment en 2013, 2014, 2015, ça va faire plus de 10 ans, notamment pour donc ce match, ça fait 9 ans pour ce match contre Chelsea, donc une des plus belles émotions sans doute donc cette équipe
de ces dernières années, oui, de l'ère QSI, je pense que c'est une des plus grandes émotions, retournement de situation avec l'effet de jeu.
Exactement, c'est ce que j'allais rappeler. Donc on est en huitième de finale, il y a eu un partout à l'aller dans ce match-là, match retour à Stamford Bridge, et effectivement Blaise, vous avez l'impression que tout est contre vous, non, sur ce match?
Ouais, c'est vrai que c'était un match que je pense qu'on maîtrisait, mais on prend en début un peu contre le cours du jeu et puis on se dit que c'est vis repetita et là il y a ces actions, voilà, cette première, ce corner et la tête de David Luiz, voilà, qui nous donne espoir. Et c'est sûr que c'était un match assez incroyable.
Alors vous êtes à 10 presque tout le match, hein, puisque Zlatan se fait expulser à la demi-heure de jeu pour un tag. Bon, le rouge est un peu sévère. Quand même. Hein. Et en plus, on a l'impression que l'arbitre vous donne rien. Il y a notamment Diego Costa, l'attaquant de Chelsea à ce moment-là, qui fait du Diego Costa, quoi, qui est infect. Et notamment, il y a un tag sur Thiago Silva où il prend que jaune. Et donc, Kyle ouvre le score à la 81e, alors que vous êtes à 10. Vous arrivez à égaliser grâce à David Luiz. Prolongation. Hazard marque sur penalty et là c'est le moment Thiago Silva ensuite qui égalise.
Alors on s'en souvient. Je pense que ce souvenir-là est incroyable, Blaise, non?
Ouais, ce souvenir-là il est assez incroyable. C'est vrai que de se dire que à 10 contre 11, on déjà d'arriver aux prolongations puis ensuite réussir après ce but d'Hazard, réussir à revenir encore et nous donner cette qualif à travers cette tête de Thiago, pour nous ça a été un moment assez incroyable à vivre. Voilà, on y a mis du cœur et on a été récompensé, et je pense que cette année-là c'était vraiment une année assez spéciale. Je pense que c'est l'une des meilleures années que j'ai pu vivre moi au PSG, et c'est vrai que on fait du foot pour des moments comme ça, et c'est vrai que cette soirée-là est assez exceptionnelle.
Et c'est l'apogée d'ailleurs, hein, cette période-là, du fameux milieu de terrain, Verratti, Matuidi, Mota. Qui marchait sur l'Europe durant ce moment-là.
C'est pas parce que Blaise est là, mais on le dit souvent, qui a pas été remplacé, du moins une complicité, une complémentarité comme ça d'un milieu de terrain, et pour moi ça a été une erreur de casser ce milieu de terrain au fur et à mesure des années, même si Thiago Motta était obligé d'arrêter au bout d'un moment, mais Blaise est parti, toi Blaise t'es parti, Marco est parti après, vous l'avez laissé un peu trop orphelin. Jérémy, moi j'ai envie de te poser la question, quand tu vois Blaise, l'évolution de Blaise au Paris Saint-Germain, même tout au long de sa carrière au niveau international aussi, t'as été surpris de le voir aussi haut?
Déjà incroyable. Surpris, oui et non. Quand on se rencontre en équipe de France, dans les équipes de France de jeunes, c'est vrai que Blaise, déjà il jouait pas numéro 6, il jouait sur les côtés. Et puis il a su gravir les échelons, et par le travail, par l'acharnement, et tout ça, on fait qu'il a mis tous les ingrédients, et tous ces ingrédients-là ont fait qu'il a fait cette carrière. C'est un mec qui a toujours été aimé dans le groupe. Ouais. Il a toujours été respectueux. C'est un mec qui arrive jamais en retard, et sur le terrain pareil. Donc félicitations à lui, incroyable. Et en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc ça fait très plaisir.
Mais c'est vrai que Blaise, c'est ce que tu dégageais. De toute façon, tu le dis souvent, tu t'es accroché la mentalité de gagneur, de compétiteur. Est-ce que tu t'es inscrit? Alors, moi, je pense avoir la réponse, parce que j'étais un peu de ce côté-là aussi. Est-ce que cette mentalité de gagneur, de compétiteur, tu la dois à certains qui t'ont conseillé, à certains coachs tout au long de ta carrière?
Oui, bien sûr que je la dois à certains coachs. Et après, je pense, comme l'a dit Jérémy, voilà, moi, j'avais pas forcément le talent d'un Jérémy aussi, hein, faut se le dire. Et il fallait que j'aille chercher autre chose. Moi, c'était le goût du travail, l'acharnement au quotidien. Et voilà, moi, quand j'arrivais le lundi, Jérémy, il fallait qu'il me sente dans ses pattes. Hein. Ouais. Voilà, c'était comme ça. Et
les grandes jambes.
C'était comme ça que je faisais ma place. Je me souviens aussi de ce jour où, d'ailleurs, on a foulé la pelouse du parc ensemble lors de notre présentation.
Mmh. Voilà, il arrivait en même temps. Quel souvenir.
J'arrivais, moi, tout petit de Saint-Étienne et il fallait que je prouve, je gravisse les échelons et c'est ce que j'ai essayé de faire par le travail, voilà, en toute humilité, faire ce que je savais faire de mieux et que les entraîneurs puissent avoir besoin de moi, tout simplement. Et je pense que j'ai été récompensé et aujourd'hui je suis vraiment satisfait de ce que j'ai pu faire au Paris Saint-Germain.
Écoute, Blaise, moi j'ai une question là-dessus parce que bon, vous connaissez tous mon attachement au PSG. Hein, moi, quand j'étais au Paris Saint-Germain, en effet, ça a été une belle surprise de te voir développer comme ça. Et t'as encore une fois, je ne sais pas parce que t'es là, tu représentais le Paris Saint-Germain. On s'identifiait au Paris Saint-Germain en te regardant. Et ton départ à la Juve. Franchement, ça a cassé quelque chose. Est-ce que c'était voulu, c'était un souhait de ta part? Est-ce que c'est pas un regret d'être parti comme ça? On a jamais trop su pourquoi t'es parti comme ça.
Ouais, non, mais après, vous savez comment c'est aussi des cycles de club, voilà, aussi moi une volonté personnelle aussi de découvrir aussi. Mm-hmm.
Ouais, tu voulais partir quoi.
Autre chose, mais à un moment donné, je sentais peut-être pas forcément voilà mon travail récompensé comme il se devait aussi. Mmh. Et après j'ai décidé de franchir ce pas-là, mais j'ai aucun regret. Aujourd'hui, j'ai une très bonne relation.
À l'époque, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait faire de la place à Adrien Rabiot, formé au club et qui était en train de d'éclore aussi, quoi. Après, oui.
Oui, bah, comme je l'ai dit, c'est des cycles et voilà, j'ai toujours respecté. Et encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai une très bonne relation. Je suis très heureux et des années que j'ai pu partager avec tous les coéquipiers que j'ai pu rencontrer au PSG, notamment tous les gens qui ont travaillé pour le PSG, même le président. Donc on a toujours une très bonne entente. Et puis ce qui est d'autant plus gratifiant, c'est de voir que même quand je rentre aujourd'hui à Paris, bah, il y a toujours le respect de ce que j'ai pu apporter au club et
tout ce que t'as gagné aussi.
Et Blaise, est-ce qu'il n'y a pas quand même un regret, une frustration de se dire que là, on parlait de Chelsea, mais il y en a eu d'autres. Hein, mais vous aviez quand même une de ces équipes avec Thiago Silva, avec Maxwell, avec Zlatan, avec donc on l'a dit au milieu de terrain, Mota, Verratti, Pastore, Cavani. Enfin, je veux dire, vous aviez une équipe exceptionnelle et vous n'êtes pas allé plus loin que les quarts de finale. Est-ce que ça reste un regret?
Ah, on pourra toujours garder des regrets lorsqu'on n'a pas atteint les objectifs, on va dire, espérés. Après, c'est vrai qu'on avait une équipe de grande qualité. Mais je pense qu'il y a une époque, notamment la première année de l'ère Ancelotti, on compte quand même le grand Barça avec un grand Messi.
Ouais, ouais. Et puis on perdait pas les retours.
Pas forcément, voilà, c'était pas forcément évident aussi, donc. On garde que de bons souvenirs. Honnêtement, voilà, il faut garder les bons souvenirs. On a passé de très très belles années et il fallait que ça arrive. Et je l'espère que ça va arriver cette année. Je pense qu'il y a tout pour que le Paris Saint-Germain puisse enfin gagner cette coupe aux grandes oreilles.
Il n'y a pas de regret, Jérémy, non plus. Toi qui as connu le début de cette équipe. Bah, des regrets, oui et non, mais comme l'a dit Blaise, c'est vrai que c'était, nous, c'était le début de l'ère QSI. Donc, c'était une nouvelle aventure, que ce soit pour nous et aussi pour le club du PSG. Donc, forcément, après, oui, quand on perd contre le Barça, il y a des petits regrets parce qu'on perd pas sur les deux matchs. Mais après, les adversaires aussi, il y a 8 ans, 9 ans de ça, les adversaires, sans manquer de respect, était quand même aussi, je pense, beaucoup plus fort, de plus haut niveau qu'aujourd'hui. Donc, zéro regret.
Blaise, moi, j'ai une question plus personnelle. Je t'ai vu dans l'émission d'M6, là, tu qui veut être associé mon associé. T'as pas un plan pour gagner un peu d'oseille, là? Parce que nous, c'est dur. Hein.
Écoute, on essaye. C'est vrai que j'ai ce souhait aussi de m'ouvrir un peu l'esprit et de penser à autre chose que le football. Voilà, c'est une autre passion que j'ai aujourd'hui. Ah, j'étais pas forcément le plus intelligent aussi, hein. Jérémy peut vous confirmer, mais après, voilà, le fait d'être proche aussi, de faire des rencontres, ça m'a
bien beaucoup conseillé,
aidé. Et aussi, j'apprends aujourd'hui aux côtés des personnes qui sont aussi talentueux dans leur domaine, donc ça, voilà,
Blaise, avant de te loyer, un dernier mot de Manu Petit.
Ouais, moi j'ai une dernière question qui a un rapport avec ta reconversion d'ailleurs. J'ai cru comprendre que tu as ouvert récemment une académie au Congo. Je voulais savoir quels étaient les objectifs au fait de cette académie.
Oui, les objectifs, c'est assez clair. Moi, j'ai toujours cette passion de football et j'ai envie de redonner. Voilà, moi, quand j'étais plus jeune joueur, mon papa me disait toujours quand tu auras l'occasion de redonner, ben, ça serait bien que tu le fasses à ton tour. Comme vous le savez, en Afrique, c'est pas toujours évident. Là, on a l'occasion de pouvoir développer le football congolais. Et c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Bon, il y a un fleuve qui nous sépare entre Congo-Brazza, là où j'ai créé l'académie, et Kinshasa. Mais cette envie, voilà, de redonner, d'accompagner des jeunes qui ont du talent et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir les structures requises pour justement progresser et aussi rêver. Ouais. Voilà, il faut leur donner la possibilité de rêver, et c'est ce que j'essaie de faire. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être bien accompagné. Donc voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un accompagnement et essayer de donner cette chance à ces jeunes-là.
Et j'ai vraiment une toute dernière question. Elle est pour Julien Cazard.
Oh là là, attention.
Oui, allô. Il est là. Vas-y, Julien, c'est mon tour.
Monsieur Matuidi, bonjour. Vous m'entendez?
Bonjour.
Bonjour. Et je voulais te poser une question. Tu te souviens de la remontada ou pas? Ça dit un truc, le match? Je
sais pas si tu te souviens. Con,
avant le match, je t'avais croisé à l'hôtel, au fameux hôtel. Je t'avais offert une casquette avec Shakira dessus. Je voulais savoir si tu l'avais gardée.
Je l'ai jeté à la poubelle.
Allez, merci Blaise.
Merci Blaise et salut, bon courage Blaise. Pour la suite et à bientôt.
À bientôt, en tout cas,
merci. Merci d'être,
bientôt,
d'être merci, passé bien, dans l'émission. Merci.
Blaise Matuidi, donc, dans Rotten sans flamme. Demain, nouvel épisode de notre feuilleton. On se penchera sur l'année 99 de l'OM en Coupe de l'UEFA. Il y a eu finale à la fin. Christophe Dugarry sera là. Il y était. Pas de la finale,
pas
mais
Roland,
de l'épopée.
L'entraîneur,
Roland Courbis était l'entraîneur. Ouais. Et Peter Luxin sera avec nous également. Autre joueur de l'OM à l'époque.
On va refaire la bagarre de
Parme. C'était 2-0, non, c'est 3. Ça
3-0, je crois. 3-0.
On va essayer 3-0. De faire, refaire la bagarre.
Avec de Bologne. Liga, on en Bologne. Parlera, effectivement. Ce sera demain. Dans une seconde, le quiz. Et toujours 2-0 pour le PSG à Lorient. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h48 sur RMC. On est là, on est bien. On finit les 2 heures de Rotten sans flamme avec le quiz de Julien Cazard et une équipe formée par Manu Petit et Jérémy Ménez contre moi, mon joker de luxe et Jean-Louis Tour, oui. Deux auditeurs et puis quelques personnes en public aussi.
Allez, on y va.
Allez.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Il a pas annulé la cuillère hier?
Non, oui, j'ai gagné.
Oui, mais détends-toi, oui, la touillette est encore là.
Mi-temps ou moustoir, 2-0 pour le PSG, Dembélé, Mbappé pour les buteurs. Une semaine dans une résidence Lagrange à gagner, ce sera soit pour Cédric, soit pour Stéphanie qui sont avec nous.
Salut Stéphanie, salut Cédric.
Bonjour.
Bonsoir Stéphanie.
Stéphanie,
tu veux être avec qui?
Équipe Rotten ou reste du monde?
Je vais choisir Rotten.
Ah, ce n'est donc pas Stéphanie Frappard.
Non,
c'est pas Stéphanie. C'est pas
j'aurais, bien aimé, j'aurais bien aimé.
C'est Cédric avec le
c'est pas la frappouille.
On l'embrasse, la frappouille.
Oui, on l'embrasse.
Question flash. Quel jeune du centre de formation joue au milieu du PSG ce soir?
Mayulu. Mayulu, bonne réponse de Jérôme Roten.
Et pas Mayouloulou, comme elle a dit.
Et pas Mayouloulou, le copain de Mumba Nyanya. Kik Seti. C'est même compliqué. Attention, David Ginola.
Oui.
Que t'as bien connu.
Ouais.
A sûrement passé des vacances sur la Costa Brava, sur la Costa Blanca ou la Costa Dorada, mais où n'a-t-il jamais passé ses vacances? Il a passé des vacances sur la Costa Brava, la Costa Blanca, la Costa Dorada, mais où n'a-t-il jamais passé ses vacances?
Costa Rica.
Non. Sur la
Costa Curta.
Ginola. Sur la
Ginola.
Il a passé. Où est-ce qu'il passera jamais ses vacances? Sur la Costa
Costa Dinov.
Costa Dinov. Bonne mais réponse.
Oui, Costa Dinov. J'ai il y a trois mecs qui lui soufflent. Il comprend toujours pas, le mec.
Ouais. Et ben toi, enfin,
excuse-moi, Costa Dinov.
Je suis fasciné. Je t'ai vu en train de sauter en plus.
Excuse-moi. Je peux comprendre que Costa Dinov, tu ne le connaisses pas, mais pourtant, tu l'as bien vu, son dos, hein, sur le but de la Bulgarie.
J'ai bien vu.
Dis-moi, moi, j'ai fait une Coupe du Monde. T'en as fait. Ah oui. Alors, et toi, t'es patriote, toi? Et t'es patriote, toi?
Moi, cette histoire de Coupe du Monde, depuis que j'ai entendu Amélie Oudéa,
viens me le dire en face, tu vas voir.
Pas l'impression que tu y étais.
Et lui a dit quand même, t'as vu le dos de Kostadinov. Non, mais vraiment, aucun respect.
En plus, c'est vrai.
C'est dingue.
Non, c'est pas toi, c'est Laurent Blanc. Je lui en veux à mort, lui.
Ah, ça vient de là, d'accord.
Ah ouais, il nous a fait rater la Coupe du Monde. Il m'a fait chialer dans la Trinity Park.
Ouais, bon, ça fait 2-0
pour Giroud. Comme Giroud, j'aurais fait 3 Coupes du Monde.
Ouais, mais t'aurais pas gagné la deuxième si t'avais participé à la première.
Mais pourquoi?
Quoi qu'il kiffe, kiffe. Quoi qu'il kiffe, kiffe. Jérémy, il est où? Il est atterré par
là. Voilà,
il vous écoute, je vous écoute. J'admire.
Jérémy me disait la même chose sur Costadino.
Laissez-le tranquille, lui, c'est la génération dorée, les 87, qui nous ont sans faire rêver à l'Euro 2012. Allez, hein, quoi qu'il kiffe.
Vas-y, on y va, pas quand même.
Lui, il connaît plus Zlatan Ibrahimovic. Même les mecs ont perdu dans un match qui servait à rien. Quoi qu'il kiffe, kiffe. Malinovski, Kolasinac, Franck Sauzé.
Bergame et Marseille.
Bravo, Manu.
Ah oh, oui.
Envoyez ses pesées.
Atteinte à Bergame, Pico Marseille. Bijoué. On va faire une petite question Bodmer.
Il y a beaucoup de gens qui savent que Sauzé a joué à Bergame.
C'est la question Mathieu Bodmer.
Il n'y a pas beaucoup de gens.
On embrasse Mathieu.
On embrasse Mathieu.
Et qui, on embrasse tout le monde. Bah oui, il vit des moments compliqués.
Ah, il va peut-être revenir.
Non, mais c'est. Non, mais c'est. Non, mais il va être très bien. Non, en Ligue 2.
Il a prolongé de 3 ans.
Non, non, très bien.
Bah non, mais ça, tu sais comment c'est, la prolongation comme ça.
Sinon, il y a une question qui arrive.
Va revenir.
Quelle spécialité bretonne? Je vous rappelle qu'on est à Lorient, là. Quelle spécialité bretonne est un breuvage liquoreux issu de la fermentation d'un mélange d'eau et de miel? Le nom est utilisé en tant que terme commercial donné aujourd'hui en Bretagne à l'hydromel. Attention, je vous le redis. Spécialité bretonne est un breuvage liquoreux issu de la fermentation d'un mélange d'eau et de miel.
L'Éribo?
Non.
Le L'Éribo.
C'est pas un truc.
C'est des bonbons, ça?
Non, mais le L'Éribo, c'est du lait.
L'Éribo, bah ouais.
Le Chouchen.
Bah, le Chouchen!
Bravo, Manu. Oh, t'as jamais bu du Chouchen?
T'as jamais bu du Chouchen?
Je bois pas d'alcool, moi.
Deux de plus, lui. Tu n'as
même pas l'excuse de l'alcool?
Non, non.
Allez, qui
est le colo, toi? Chouchen.
Ah bah oui, évidemment, de père en fils. Qui est cultivé?
Deux.
Qui est cultivé? Quel était l'arrière-droit brésilien préféré de Carla
Cafu,
Bruni?
Cafu.
L'arrière-droit préféré. Tu le sais, toi?
Non.
4 consonnes et 3 voyelles.
Ah oui, si, bah du coup, oui. Je l'ai. Toi aussi, tu l'as, Julien.
Allez, moi, je l'ai.
Roberto Carlos?
Roberto Carlos,
Daniel Vest,
et 3 voyelles.
Daniel Vest,
4 consonnes, 3 voyelles. Roberto Carlos. Ben moi j'ai envie de donner un point.
Je donne un point.
La France, c'est un craquage. La France a eu plusieurs clubs en finale de Coupe d'Europe.
Ouais.
Oui. Mais elle a de très loin le pire bilan en finale.
Bah oui, on les a toutes perdues quasiment.
À la décimale inférieure, quel est le pourcentage de victoires en finale de Coupe d'Europe des clubs français?
Hein, la décimale inférieure. Tu
peux répéter la question.
Non, mais nous, on n'est pas des matheux ici. Hein.
Tu peux répéter la question.
Quel est le pourcentage?
Tu nous parles.
Alors, combien de pourcentage
sujet, verbe, complément.
Combien de pourcentage de victoire en finale des clubs français?
10%.
Même pas. 10 pour Jérôme.
Je dis 5.
5 pour Manu.
7.
7. C'est 13, bonne réponse.
Yes, comme à Marseille.
C'est moi.
C'est Jérôme qui
est. Et là, c'est le double-double.
3-2.
Tu es seul à répondre, Jérôme.
Oui, vas-y.
Il y a eu 13 finales de Coupe d'Europe. Il y a eu 13 finales de Coupe d'Europe pour les Français.
Oui, mais double-double, c'est pour toi, mais c'est pour une autre soirée.
Jérôme, il y a eu 13 finales de Coupe d'Europe avec des clubs français. Combien de buts en tout ont marqué les clubs français?
6.
13. Mais tu n'as rien à dire. Il est fou, ce mec. C'est pas toi qui réponds.
Moi, je pense. Combien de buts exact?
En tout.
En 13 finales.
En 13 finales. T'as que tu es seul à répondre.
6.
6.
2.
C'est une bonne réponse.
Yes.
Bonne réponse. 6.
Waouh.
Il y a eu un de Paris en finale, un de Marseille, un de Duel, le pauvre
Duel, je me souviens.
Et trois buts du Stade de Reims contre le Real. En 13 finales, c'est quand même
un mytho, ce mec.
Question à 2 points.
Je suis Daniel Duel, je m'en souviens bien.
4-2. Dernière question, Julien.
C'était gardien.
Aïe, aïe, aïe. Question à 2 points.
Et pourquoi?
Mon premier devait être la Première Guerre mondiale. Mon deuxième est une zone où on peut trouver un office dépôt, un Ikea ou un Jardiland. Mon troisième est l'espèce préférée d'Adolf Hitler. Et mon tout est un coach français. Mon premier devait être la Première
Guerre. Derzak Arian.
Derzak Arian. Bonne réponse de Manu Petit. Balle de match.
Wow, Manu, regarde-moi, Manu.
Question, c'est abusé.
T'as triché.
Question, c'est abusé. Oh, mais mon vieil, c'est abusé, gros.
Non, mais je triche pas, ça va pas.
Attention, c'est balle de match, question abusée.
Jamais.
Focus, sinon on va perdre.
Allez.
Il y a eu un magnifique Lorient PSG.
Je te jure, tu donnes, tu vas voir.
Au début du Qatar, avec une victoire.
Lorient PSG.
Oui.
Non, ah, je me rappelle avec Neymar, le festival de Neymar.
On avait perdu.
Parce que attention.
Quel Lorientais a mis un doublé?
Fiorez.
Alors qu'il quel Lorientais a mis un doublé et qui a joué à 3?
Saifi.
Bonne réponse de Jérôme. Ah,
victoire de Jérôme. Et de Stéphanie, on l'embrasse pour la semaine de vacances.
Roten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne, trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.